pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 mars 2002 de 18 à 21h, en différé jeudi 21 mars, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. L'émission de ce soir, je voudrais la dédier avec l'accord, je pense, de mes invités à deux personnes. Une que vous connaissez, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était André Figueras. On en parlera, on en dira certainement quelques mots avec Jean Madiran, puisque André écrivait régulièrement dans Présent. L'autre personne, c'est beaucoup plus personnel, c'est mon petit beau-frère qui nous a quittés aussi ce week-end et pour qui j'avais beaucoup d'affection, et qui était un auditeur en plus de cette émission. Donc voilà, il n'écoutera pas celle-ci, enfin pas à son poste habituel. Parmi les invités, nos invités ce soir, Madame Ferrandis, bonsoir.
Bonsoir.
Qui représente le mouvement, enfin l'association des amis et parents des victimes du 26 mars 1962. C'est la date tragique de la rue d'Isly, avec qui on parlera de la commémoration de cette date. Et on parlera également de la prétendue... je sais pas comment, commémoration, célébration, fête, on peut pas appeler ça une fête, du 19 mars. Ensuite, vous entendrez les différents participants du clan de la presse, Camille Gallic, Jean Madiran, Emmanuel Ratier, Claude Giraud n'est pas là, mais je crois que il faudra prendre notre... notre mal en patience, puisque elle a un bouclage qui lui interdit de participer à l'émission, ou elle a le lendemain une émission, ce qui fait qu'elle ne tient pas à infliger sa présence deux fois de suite aux auditeurs, sans quoi elle a bien tort, et donc elle n'est pas parmi nous. Puis Jean-Claude Varane, qui est absent pour des raisons qu'il est probablement le seul à connaître. C'est vrai qu'il n'y a pas de maire autour de ce micro, donc il n'y a pas de raison de venir en ce moment, il risque pas de nous extorquer une signature. Patrick Goffman, qui est écrivain et journaliste, qui nous parlera de l'affaire Limonov, ce qui me permettra à moi de parler de l'affaire Lajoie. Et ensuite, nous recevrons deux artistes, une pianiste virtuose japonaise qui s'appelle Yunko Kazaki, et un danseur. Alors vous allez me dire, la danse c'est pas très cinématographique, mais le personnage que j'ai invité ce soir, qui s'appelle Christophe Gilles, a des choses tout à fait originales et intéressantes à dire sur son art, et c'est pourquoi c'est pourquoi je l'ai prié de se joindre à nous. Voilà, c'est le programme de ces 3 heures. Et Nicole Ferrandis, vous avez participé, il y a, je crois que c'était hier à Marseille, hier ou avant-hier à Marseille,
hier à Marseille,
à une grande manifestation. Vous voulez nous en parler?
Oui, hier, nous avions organisé une manifestation contre la commémoration du 19 mars. Pourquoi Marseille? Bien, parce que Marseille, c'est la terre, la ville qui a vu arriver le plus grand nombre de rapatriés. Lorsque nous sommes partis d'Algérie, nous sommes tous arrivés à Marseille.
Et... C'est ce qu'on disait dans l'autre sens. Vous le... Quelle est la première ville algérienne que traverse le Paris-Dakar?
Absolument, oui. Bien sûr, et bientôt il faudra un passeport d'ailleurs pour arriver à Marseille. Et donc, nous avions décidé d'organiser cette manifestation à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que, bon, il y a beaucoup de rapatriés dans le sud. C'était plus, stratégiquement, c'était beaucoup plus facile qu'à Paris. Paris, bien, malheureusement, c'est très très difficile de réunir les Français d'Algérie. Et donc, dans le cadre d'un collectif.
En revanche, réunir les Algériens de France, ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Non, je ne pense pas, effectivement. Et. Dans le cadre d'un collectif que nous avions monté au mois de décembre, un collectif contre le 19 mars, contre cette journée, contre cette commémoration, ce collectif qui réunit des anciens combattants et des associations de rapatriés, le tout additionné donne à peu près une centaine d'associations. Et donc, dans un premier temps, nous avions écrit à tous les députés, juste un petit peu avant le vote, pour leur dire que nous serions vigilants et qu'ils seraient sanctionnés. Nous avons rencontré, toujours dans le cadre de ce collectif, chaque chef de parti. Et puis, le vote a eu lieu, nous connaissons les résultats, et nous avons appelé maintenant à cette manifestation de masse. Nous étions hier 1000 personnes sur Marseille à manifester. Alors la presse nationale n'en dit pas un mot. Pourtant, il y a à peu près une semaine de ça, on avait envoyé tous les dossiers de presse en expliquant pourquoi nous allions descendre dans la rue. La presse locale en parle un petit peu. Hier, sur FR3 et sur, la première chaîne, on a vu quelques images, mais ça a été vraiment très très bref. Nous avons expliqué, nous serons toujours contre cette journée. C'était pour nous, le Français d'Algérie, et puis aussi pour la France. C'est la date de la honte. Il n'y a qu'à lire la presse algérienne. Je n'achète pas, mais je la regarde sur Internet. Et vraiment, pour eux, c'est la grande victoire sur la France. Et c'est inadmissible, bien sûr, que le même jour, les Français commémore cette date. C'est honteux. Et donc nous nous battons contre cette date, une date pour honorer les morts tombés en Algérie. Bien évidemment, nous sommes pour, mais ça ne sera pas. Nous ne voulons pas de ce 19 mars. Alors la loi est passée, bien évidemment, mais pour l'instant elle dort dans les tiroirs des messieurs les sénateurs.
Il faut dire que c'est une loi communiste. Hein. Les premiers qui ont érigé la loi, le 19 mars en date. Historique, c'est les communistes qui, il y a très longtemps, pas la gauche, les communistes, le parti communiste, et il y a très longtemps déjà, je ne sais pas, au moins 20 ans, les communistes avaient dit nous imposerons le 19 mars comme la date de la célébration de la fin de l'oppression française en Algérie. C'était une décision qui était prise depuis longtemps. Donc là, à l'heure actuelle, ceux qui ont voté pour cette date appliquent le programme communiste.
Oui, et puis c'était aussi, il faut le dire, c'était dans le programme de M. Jospin. Il l'avait dit, il l'avait promis, il n'y a qu'à lire le journal de la FNACA, qui n'a eu cesse de lui répéter, de lui rappeler que c'était une de ses promesses électorales. Et bien, un peu avant les élections, et bien, il a voulu leur faire ce plaisir, et peut-être pensant par là, et bien, gagner encore des voix.
Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour continuer à manifester votre opposition, l'opposition des rapatriés?
Mais de toute façon, nous, on va continuer, pour les élections présidentielles, et bien, on peut... nous savons, de toute façon, nous rapatriés, qui peut bien sûr nous défendre. Donc là, il appartient à chacun de réfléchir et de faire ce qu'il faut faire. Après, il y a les élections, il y a donc les législatives, et c'est les députés que nous allons voir. Nous avons appelé tout à l'heure, je vous ai donné un journal. Nous avons recensé département par département tous les députés qui ont voté pour le 19 mars. Et là, c'est très clair, nous allons aller...
Le journal, c'est France Horizon, le cri du rapatrié.
Oui, c'est le journal de la FANOMA. Et donc, nous allons... il y a des associations un peu partout de rapatriés en France. Et nous allons faire exactement comme fait la FNACA. Nous allons faire pression sur eux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Vous croyez vraiment que...
Ils ont peur pour leur siège, vous savez.
Ce lobby, entre guillemets...
Oui, ils nous l'ont dit.
On représente une puissance.
Oui.
Encore maintenant.
Oui, vous savez, lorsque nous avons été voir les députés, ils nous ont dit très clairement, vous savez, la FNACA est très très nombreuse.
Que la FNACA fasse peur, mais vous, est-ce que en face de la FNACA, vous pouvez exister?
Ben, lorsque dans des départements où il y a qu'à le voir, les socialistes qui se sont finalement abstenus pour le vote. Ben, c'est comme par hasard là où il y a beaucoup de rapatriés.
Ouais.
Certes, là où il y a eu, donc c'est Montpellier, lorsqu'il y a une forte concentration de rapatriés, il y a eu donc 5 députés qui ont voté contre l'East of Mars, 5 socialistes, quelques-uns qui se sont abstenus, et on a vu même ça aussi, la même chose, le même phénomène chez les radicaux de gauche. Et les communistes, alors là, ils ont été vraiment comme un seul homme, et eux, c'est la doctrine, ils suivent les consignes du parti à la lettre.
Où est-ce qu'on peut vous contacter?
Eh bien,
si on veut participer à votre combat.
Eh bien, donc l'adresse, c'est donc collectif des associations, donc des anciens combattants et de rapatriés. C'est ma boîte postale 27 95 321 Saint-Leu-la-Forêt-Cédex, ou alors tout simplement, c'est aussi l'association. Puisque je suis au départ, je suis à l'origine de ce collectif, c'est l'association des familles des victimes du 26 mars, qui est à la même boîte postale, 27 95 321, c'est le La Forêt-Cédex. Je voudrais, puisque aussi rappeler, dans quelques jours, j'organise comme chaque année une cérémonie à Saint-Nicolas du Chardonnay, une messe pour les victimes de la rue d'Isly. Ce n'est pas simplement pour les familles pour les morts de la rue d'Isly, c'est aussi pour tous ceux qui ont disparu pour leur fidélité à l'Algérie française. Nous l'organisons cette année non pas le 26 mais le 23 en raison de la Semaine Sainte, et nous ne pouvons pas la faire puisque les prêtres ne peuvent pas s'habiller en noir pendant la Semaine Sainte. Donc nous la faisons le samedi. Pour nous, il n'était pas question de... Parce qu'il y a une autre cérémonie qui a lieu dans un autre lieu. Pour nous sommes fidèles à Saint-Nicolas du Chardonnay. L'abbé Bouchard-Court, il y a quelques années de ça, nous a accueillis, nous a dit « Vous êtes ici chez vous ».
Il y a Notre-Dame d'Afrique.
Et là, j'ai fait mettre Notre-Dame d'Afrique. Il a accepté ça vraiment très spontanément quand je lui ai demandé. Il m'a dit donc, bien évidemment, qu'il était d'accord. Il y a Notre-Dame d'Afrique et puis il y a aussi cette plaque. Cette plaque qui est dédiée à nos morts, aux morts du 26 mars, à ceux du 5 juillet, et justement avec cette phrase, et à tous ceux qui sont tombés pour leur fidélité à l'Algérie française. Je ne crois pas qu'il y ait une église en France où nous pouvons trouver ce genre de plaque. Et donc, moi, je reste fidèle, je resterai toujours fidèle à Saint-Nicolas du Chardonnay, et j'invite donc tous les auditeurs qui veulent se recueillir pour nos morts, à se rendre ce samedi 23 mars à 18h30 à Saint-Nicolas du Chardonnay.
Merci, Nicole Chandon.
Notre ami Alain Sanders qui, dans l'après-midi, organise justement une conférence. C'est sur le souvenir. Et c'est donc le samedi 23 mars à la salle de 5, 4 places Saint-Germain-des-Prés. Mm-hmm. C'est 40 ans après. Je crois qu'il est important pour tous ceux qui ne veulent pas oublier de se rendre à cette conférence.
Merci beaucoup. Donc, la messe à 18h30, pardon, à Saint-Nicolas. Et la conférence d'Alain.
À Cap Saint-Germain-des-Prés, salle de Saint, dans le 6e arrondissement. À 14h30.
Donc c'est avant.
C'est avant, et justement, ça a été calculé de façon
c'est
à ce que les gens puissent aller ensuite à Saint-Nicolas du Chardonnay.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Serge Becquet. Merci.
Monsieur Madiran, puisque j'ai dit que Madame Camille a dit que bonsoir. Monsieur Madiran, bonsoir. Monsieur Ratier, bonsoir. Si vous voulez prendre la place de Nicole Ferrandis. Et Monsieur Fersan, bonjour. Est-ce que vous êtes sage?
Mm-hmm.
Oui, bon, il n'a pas l'air. Bien, ça va le petit bébé?
Le petit bébé va bien, oui. L'opération s'est très bien passée. Il se remplume bien.
Il faudrait pas qu'il devienne comme son père aussi à force de se remplumer.
Je crois qu'il est bien parti pour devenir comme son père.
Les remplumer, c'est pas forcément devenir comme un édredon.
Ça se paiera, ça.
Surtout souvent à l'hôpital qui soude la charité.
Exactement. Et
Jean, comment avez-vous connu Figueras, vous?
Comment je l'ai connu? Peut-être que le plus jeune... Je l'ai connu pas depuis l'origine, ni depuis la résistance, Non, mais il me semble que le plus ancien souvenir de lui et l'occasion de faire sa connaissance, ça a été à cette réunion de la mutualité de 1982.
Non. C'est là que vous avez connu Figueras?
Oui.
Je pensais que vous le connaissiez depuis...
Non.
Pas depuis la résistance, puisque vous n'étiez pas dans le même réseau, mais...
Oui, non, pas du tout.
Au moins depuis...
Mais, non, je pense que c'est là où, et où il a été poursuivi pour avoir dit que du train dont allaient les choses, je ne sais plus les termes exacts, nous aurions bientôt un président de la République musulman.
Cette, c'était pas trompé de beaucoup, on a un président, on va avoir un président de la République protestant.
Ah, ne mélangeons pas tout de même. Oui.
J'étais sûr que j'allais faire réagir Camille.
Je sais bien qu'il y a le désert, mais enfin, oui. C'est assez c'est éloigné de... l'un de l'autre.
Chez les catholiques aussi, il y a le désert.
Non, enfin, moi je connais Figueras depuis moins longtemps que Rivarol ne peut le connaître, semble-t-il.
Moi, j'ai fait la connaissance de Figueras, là je peux le dater très précisément, c'est au procès du Petit Clamart, où j'étais témoin, et donc en janvier 63.
Ah oui. Moi, je l'ai connu en 66, quand il était à Minute. Et quand, je veux te dire que le premier souvenir que j'ai de Figueras, c'était c'est sa voix d'abord, cette façon de parler unique qu'il avait. Et puis, je peux le dire parce que c'est pas manqué à sa mémoire. Le premier souvenir que j'ai de lui, c'est dans une conférence de rédaction à Minute, où Boiseau, qui était terrifiant, Boiseau c'était la statue du commandeur en conférence, donc il se tournait vers quelqu'un en disant « Alors, avez-vous une idée ?» Et si on n'avait pas d'idée, effectivement, on était foudroyé par les... C'était jupitérien, on était raide mort. Et alors il se tourne vers Figueras et lui dit « Alors Figueras, avez-vous une idée ?» Et André, qui visiblement n'avait pas du tout pensé à ça, pour une fois, dit « Oui, je suis venu par le métro et j'ai constaté que dans les escaliers roulants du métro, les marches sont beaucoup trop courtes. » Et je crois me souvenir qu'ADG était là. En tout cas, je me souviens qu'on s'est regardé avec quelqu'un et on est parti d'un éclat de rire, mais qui est absolument incoercible. Parce qu'il faut dire que Figueras, qui était assez grand, avait vraiment de grands pieds. Et je veux dire, le spectacle de Figueras essayant de placer ses grands pieds sur les marches de l'escalier mécanique du métro, ça c'est quelque chose qui me restait. Et donc, voilà le premier souvenir que j'ai de lui. Et après j'ai découvert tout ce qu'il avait fait, parce que c'était quand même un personnage fabuleux au sens presque légendaire.
Il a affronté tout seul des puissances considérables et redoutables,
oui,
comme le fisc par exemple.
Il a pris bille en tête,
Figueras contre le fisc.
Ça se mériterait
Figueras
une épopée. Contre De Gaulle.
Contre les faux résistants.
Les vrais coquins.
Oui, c'est-à-dire des puissants. Oui,
ouais. Et puis alors, ce qui est très amusant, c'est
le vrai polémiste qui,
chaque
qui
fois qu'on découvre,
aux puissants.
Voilà, chaque fois qu'on découvrait quelque chose sur lui, c'était totalement inattendu. Mais sa résistance, par exemple, la façon dont ça s'est suivi avec son départ, enfin, dont ça s'est passé avec son départ en Espagne. Quand il est en Espagne, il est dans un camp avec un des personnages les plus incroyablement mystérieux de cette époque, une espèce d'agent double. Il a fait un bouquin là-dessus, dont un personnage dont le nom m'échappe, qui était à la fois agent allemand, agent de la résistance, agent de l'IS. Et il va raconter ça dans un livre plus tard. Il est sans arrêt au contact avec les événements, il fréquente des personnalités, mais vraiment qui vont devenir des personnalités de l'histoire, des grands bonshommes de l'histoire de France, et il passe à travers ça sans y toucher, enfin en regardant, sans vouloir participer à rien. En fait, il aurait pu être ministre. Avec le bagage.
Oui, c'est ce que dit. La guérille. Je ne sais pas compris pourquoi ils aient pris de vie. Il participe, parce que c'est sa vocation d'écrivain, il participe au maximum de ce que peut faire un écrivain.
Oui, mais s'il avait voulu faire du fric avec sa cible, c'est ça que je veux dire.
Oui,
il serait devenu politicien,
et
ministre.
Et faire du trafic de femmes, ou de noirs, ou que sais-je. Oui. Naturellement, mais c'est autre chose.
Ça serait... Non, mais il a,
ça c'est quand même un autre personnage.
Ça c'est sûr. Oui.
Enfin moi je connais surtout l'écrivain et je trouve qu'il correspondait tout à fait. C'est pas un écrivain de raccro, il a un style Figueras qui surprend quelquefois,
oui,
qui surprend, qui dit mais comment écrit-il, dit ce qui n'entre pas dans. Mais en fait c'est un style oui, écrivain.
Il y a un superbe papier dans le présent.
Comment ?
Il y a un superbe papier dans le présent qui est arrivé dans les.
Eh bien, le dernier papier.
Vous nous racontiez comment ça s'est passé, ce papier, parce que c'est vraiment son tout dernier papier, alors.
Eh bien, oui, c'est son tout dernier papier, et il pensait que ce serait peut-être son dernier papier, mais enfin, il ne savait pas quand, il était tout à fait. Je l'ai vu au Barou. Il raconte au début du papier, non pas qu'il m'a vu, mais qu'il a été conduit au barreau par un ami et qu'il était quand même. Et je l'ai vu, j'étais frappé. Je ne l'avais pas eu depuis un certain temps parce qu'il venait plus nous voir à présent depuis un certain temps. Effectivement, il était marqué. Il avait été handicapé par l'accident qu'il a enfin raconté, qui remonte à plusieurs semaines. Qu'il raconte dans cet article. Et alors là, il est, mais surtout dans le cas d'accident, semble-t-il, cérébraux, il n'était pas du tout atteint, ni dans son élocution, ni dans sa présence d'esprit. Mais ce que j'avais trouvé là, donc, au Barreau, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant, il nous avait parlé de son nez dans la moquette pendant 12 heures, n'est-ce pas, et du titre qu'il avait donné, l'éternité
vue d'en bas.
Il me semblait qu'il avait donné un autre titre d'ailleurs, mais c'est peut-être ma mémoire qui me trompe. Il me semblait qu'il disait je vais intituler ça l'éternité vue par en dessous, mais c'est peut-être moi qui ai mal retenu. Vue par en dessous, l'éternité vue d'en bas, mais il pensait beaucoup à l'éternité.
Oui.
Et là, l'histoire qu'il raconte, c'était son avant-dernier accident, où un jour où il était seul à sa maison parce que sa femme était allée garder les petits-enfants pour permettre à leurs parents de faire leurs activités de journaliste, était passé pour la nuit, elle les gardait, il était seul. Et le soir, au moment où il allait mettre le percolateur en marche, et comme il dit, heureusement avant plutôt qu'après, il est tombé. Il est tombé de tout son long, sans savoir pourquoi ni comment, le nez dans la moquette, même avec les aspirateurs les plus modernes, dit-il, il y a quand même beaucoup de poussière dans les moquettes, surtout quand on y reste 12 heures. Il ne pouvait pas bouger, il pouvait simplement appeler, mais personne ne l'entendait. Et c'est seulement le lendemain matin, quand il a entendu la clé de sa femme dans la serrure, qu'il s'est dit, on va me tirer de là. Mais il dit qu'il l'aurait su d'avance, ça lui aurait paru insupportable. Mmh. Naturellement, il a pensé à beaucoup de choses pendant 12 heures.
Moi, ce qui m'a frappé, parce qu'il m'avait téléphoné 2-3 jours plus tard pour me raconter ça, c'est qu'il racontait ça comme une expérience plutôt comment dirais-je, après l'expérience, il trouvait ça assez rigolo.
Oui, mais en fait, comme une épreuve, comme il dit dans son article, comme une épreuve dont il est. Mais ce qui m'a frappé dans les circonstances de ses funérailles, de son décès, de ses funérailles, c'est que il est ce qu'il avait d'ailleurs été de son vivant, ce qu'il avait cherché à être de son vivant. Il est un trait d'union.
Oui,
entre Saint-Nicolas et le Barou.
Ça c'est extraordinaire parce que son fils Raphaël qui est au Barou,
qui est un moine du Barou,
est venu célébrer
la messe à l'hôtel de Saint-Nicolas,
et l'abbé Laguéry est venu de Bordeaux pour prononcer son éloge funèbre.
Oui, oui.
Ah, je dois dire que c'était vraiment un beau témoignage.
Avec le post-scriptum qui est charmant de son article, ce qui même auront l'occasion de faire un beau voyage en venant voir, puisqu'il est enterré dans le cimetière communal du Barou.
Demain.
Pas dans le monastère, naturellement. Qui est réservé
Voilà, bon, c'est quelqu'un qu'on, moi j'aimais beaucoup finalement, enfin pas finalement, j'ai toujours un peu honte parce que on s'est tellement moqué de lui quand j'étais jeune journaliste et qu'on se prenait pour les rois de la pampa et qu'on regardait, il avait 22 ans de plus que moi et pour moi c'était vraiment un vieillard, hein. 22 ans nous séparait, c'était inimaginable, j'ai l'impression d'incarner la jeunesse du monde en face de la préhistoire. Et quand j'ai commencé à le découvrir vraiment, quand on est devenu amis, j'ai découvert un type formidable, intelligent, avec une culture, avec un humour et une modestie.
Son style avait parfois une certaine. Si on pouvait, ce qu'il faut évoquer quelquefois la moquerie de ceux qui n'entraient pas, c'est que son style prenait parfois une certaine solennité au détour d'une phrase qui paraissait sinueuse, qui avait une construction à part. Mais si l'on y regardait de près, quand il fallait regarder de près, on voyait qu'elle était très bien construite. Très volontaire, c'était pas l'effet du hasard. Mais effectivement, une certaine solennité, la solennité de mon Dieu, de sa génération.
Ouais.
Que garde encore un peu sa génération.
Merci. Emmanuel, vous l'avez connu, vous? Vous voulez en dire un mot?
Je ne l'ai pas connu.
Vous ne l'avez pas connu du
pas
tout?
Pas du tout. Enfin, je l'ai croisé.
Ouais.
Mais j'ai juste une anecdote.
Ah!
Voilà, qui à mon avis est totalement inédite.
Ne nous faites pas languir.
Il y a 20 ans à peu près, ouais 20 ans, il y a des gens qui ont récupéré des tonnes d'archives des anciens combattants, et notamment les PV de Réunion, de la fédération c'était les gens qui donnaient les homologations pour savoir si on était résistant déporté ou non. Et il y a un document qu'on a sorti quand je travaillais à Magazine Hebdo en 83. C'était le refus de cette commission d'accorder la carte de résistant déporté à Marcel Paul.
Oui,
l'affaire avait été apportée par le conseiller général CDS, là,
qui a été ensuite
qui a varié, qui est passé
Laurent Wetzel.
Bon, et on a eu un procès, et il se trouve que par les amis que j'avais à l'époque, on s'est plongé dans ces archives et on a trouvé le refus de d'accorder la carte de déporté à Marcel Paul. Donc ça nous a permis de gagner ce procès. Alors ces archives représentaient des mètres cubes et des mètres cubes. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Mais moi, j'avais pas la culture politique à l'époque suffisante. Et donc, elles ont été entassées pendant un certain nombre d'années. Et puis, il y a 6 ou 7 ans, ils sont ressortis. Je peux pas en dire plus. Et on m'a demandé si je les voulais. J'ai dit non. J'ai dit, donnez-les à Monsieur Figueras, parce qu'il connaît bien la résistance, il pourra en parler. Et je peux le prouver, puisque les 3 ou 4 derniers ouvrages qu'il a publiés, il publie des fiches qui sont les fiches de la fédération.
Mais d'ailleurs, il ne s'en fichait pas du tout, puisqu'il
m'avait expliqué. Qui sont les documents authentiques. Et je dois dire que la plupart des documents authentiques, je le raconte ce soir juste, bon, parce qu'il ne le sait pas. Moi, j'ai dit non, j'ai plus de place.
C'est à la suite de la mort d'un grand personnage que vous aviez été.
C'est un peu complexe. Je raconterai peut-être dans une autre vie.
Il faudra le raconter.
Mais donc, les archives qu'il exploitait, je les avais eues entre les mains avant. Mais je lui avais donné parce que je pensais qu'il était plus capable que moi de les exploiter. Ouais. Voilà.
Voilà. Vous le connaissiez pas, mais vous avez quand même travaillé ensemble, en quelque sorte. Bien. Ben, venons-en à une actualité, moins personnel et plus politique. Ce que je vous propose, c'est peut-être de parler, on va parler de la campagne, on peut pas faire autrement, décemment, non? La campagne présidentielle, je veux dire.
Oui, j'avais cru comprendre, en effet.
Camille me regarde avec un
avec
air de dire...
l'air d'une vache.
Ça m'ennuie. Non, pas du tout. Et tout ça m'ennuie prodigieusement.
C'est électoral.
Alors, puisque vous avez la parole, gardez-la. Que vous inspire la promesse de Jospin de loger 87 000 SDF d'ici 2007?
On peut toujours promettre de loger
un nombre
incroyable de SDF. Ce que je crains, c'est que 2007, d'ici à 2007, il n'y ait quelques millions de SDF de plus. Enfin, ça me paraît être le tonneau des Danaïdes à l'envers. Enfin, je ne vois pas très bien comment on peut résorber une situation quand on voit le paquebot plein de Kurdes qui est récupéré par les Italiens, par le monsieur Berlusconi, dont on nous avait dit d'ailleurs qu'il allait être très brillant dans la lutte contre l'immigration. Je crois que il n'a pas fait accompagner ce cargo.
C'est pas l'Australien.
Pardon.
C'est pas un Australien.
Non, ça n'est pas justement ce que j'allais dire. Il aurait très bien pu faire comme les Australiens, dire là nous avons, il y a des îlots déserts.
Ils l'avaient dit.
Allez-y, l'équivalent de Nauru, ça sera très bien, vous y resterez. Là, on les a mis entassés, enfin assis dans les cars, semble-t-il, les plus confortables que compte la péninsule pour les acheminer à Bari. Ils auront donc déjà eu une vue de l'Occident qui ne peut que les inciter à rester,
Et
alors nous avons, surtout que je dis nous, parce que tout le monde sait ici que je me sens profondément européenne, donc quand il s'agit des Italiens, je prends à mon compte aussi, et nous aurions fait exactement d'ailleurs la même chose. Les Italiens ont cédé à ce chantage ignoble. Des meneurs kurdes menaçant de jeter les enfants à la baille.
Moi, ce que je me demande,
ce qui est absolument invraisemblable.
Ce que je me demande avec cette proposition de Jospin de la couverture logement universel, c'est on a la couverture maladie universelle, on a la couverture logement universel. Bientôt, je pense qu'on aura la couverture circulation universelle, parce qu'il faudra que ces gens-là puissent prendre. On ne va pas continuer à les arrêter dans le métro et dans le train pour leur infliger des amendes qu'ils ne payent jamais. Donc, il faudra faire une carte de circulation gratuite. Et puis, il y aura les restaurants du cœur. Donc, il y a la couverture alimentaire universelle. Donc, ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont quand même finir par comprendre que c'est beaucoup plus simple de rien foutre, puisqu'on est logé, nourri, transporté, sans trop se fatiguer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la France est le seul pays à faire ça, si j'étais SDF en Angleterre, par exemple, je me dirais, ou en Angleterre, c'est absolument interdit, il n'y a aucune aide qui est prévue pour les SDF, et interdit de faire la manche, je pense que je viendrais rapidement en France. Et si j'étais polonais, par exemple, ou russe, et que je travaille pour 1,5 rouble par semaine, quand un quignon de pain vaut 2 roubles par jour, je pense que je viendrai en France. Donc là, au moins, le problème démographique va être réglé assez rapidement par ce biais-là. On va avoir une France de 200 millions, de non pas de SDF, mais de couverts universels.
Je pense que si on va vers des élections un petit peu partout en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique l'année prochaine, il va y en avoir en Suède, il y en a eu au Danemark, tous les pays sont en train quand même de restreindre leur loi sur l'accueil aux immigrés. Aux Pays-Bas, on va même les aides sociales seront soumises à impôts. Et non seulement seront radicalement réduites, mais soumises à l'impôt. Je pense qu'en effet, je l'ai écrit il y a quelques semaines, on deviendra automatiquement le déversoir ou le dépotoir, comme on l'en voudra, de toute la misère du monde, puisque nos voisins se montreront de plus en plus réticents à l'accueillir. Et non, ça, ce problème, ça me paraît, qui est intimement lié à ce qu'on appelle l'insécurité, qu'il faut appeler la criminalité, est justement éludé au profit de l'insécurité, entre guillemets.
Oui, et sur ce sujet d'ailleurs, ce qui montre véritablement le vide honteux des choses qui s'agitent, c'est le programme commun de Jospin et de Chirac sur la sécurité et l'insécurité, qui consiste pour l'un comme pour l'autre a créé un super ministère qui sera chargé de coordonner l'action des différents services et différents ministres.
Différentes commissions aussi.
Il y aura oui, avec une commission. Mais ce qui montre quand même à quel point ils se foutent du monde, c'est que cette commission existe.
C'est le Conseil.
C'est le Conseil des ministres. Et
il y a un Conseil national de la sécurité.
C'est un Conseil national de l'insécurité.
Le super ministre chargé de coordonner l'action des différents ministères, c'est le Premier ministre.
Oui, normalement.
Le Premier ministre n'est rien. C'est-à-dire que véritablement, c'est la confirmation qu'ils ne feront. C'est l'engagement pris par eux qu'ils ne feront rien contre la criminalité. Permettez encore un mot là-dessus. Ils s'avancent aujourd'hui devant les électeurs en montrant qu'ils sont d'accord, l'un et l'autre, sur le remède miracle à l'insécurité. C'est de créer un super ministère. Mais s'ils sont d'accord, pourquoi ils l'ont pas fait depuis 5 ans?
Oui, c'est
véritablement. Il y a vraiment dans cette campagne électorale une disqualification, un consensus dans la disqualification.
Ouais.
Maintenant, la circonstance atténuante, il faut quand même dire aussi quelque chose. C'est que si un gouvernement, un jour, décidait, en le promettant aux électeurs ou sans le promettre aux électeurs, de rétablir l'ordre et la sécurité en France et de lutter contre la criminalité, cela voudrait dire qu'il est prêt à faire face à l'insurrection généralisée des banlieues ethniques.
Mais elle est commencée, l'insurrection.
Oui, mais généralisée. Oui.
Une grenade à Clichy.
Mais ils ne veulent pas y faire face. Ils feront. Tout ce qu'ils font, c'est parce qu'il faut absolument éviter le bain de sang. Il y a beaucoup de cas où il faut éviter. Mais là, il est évident que l'ordre en France, la sécurité des personnes et des biens en France, la lutte contre la croissance de la criminalité, suppose des mesures qui provoqueront une insurrection générale des banlieues ethniques. Et ça, c'est surtout ce qu'ils veulent éviter.
Ils veulent l'éviter parce qu'ils se savent totalement, ils savent.
Parce qu'ils n'ont pas
totalement incapables de l'affronter.
Ils n'ont pas.
En avons-nous d'ailleurs les moyens? Je n'en suis pas tout à fait sûr.
Le principal moyen, c'est la volonté et les peines exemplaires exécutées sur le champ même.
Oui,
il n'y aura pas seulement une bataille d'Alger.
Il faut que ça s'applique.
Il y en aura une centaine.
Il faudrait qu'il y ait un consensus social.
Oui, mais ou bien on démissionne.
Non, mais quand vous discutez,
Et c'est dans la mesure où on accepte tous les risques, qu'on a une chance de les éviter.
Quand vous discutez avec des policiers qui sont sur le terrain, ou des CRS ou des gendarmes, ils vous disent qu'il y a largement suffisamment de forces de sécurité en France, qui sont largement suffisamment armées.
C'est ça.
Mais que dès qu'ils dégainent sur une voiture qui leur fonce dessus avec des types qui tirent sur eux, ils se retrouvent inculpés.
Ouais. Oui, oui.
S'ils sont couverts, la sécurité reviendra très vite. On l'a vu dans d'autres pays où il n'y a pas eu de bain de sang, où les gens ont compris qu'il y avait des limites. On leur a fixé les limites et les gens les dépassent beaucoup moins qu'avant.
Ce qui se passe à l'heure actuelle, on le voit, c'est aveuglant. C'est qu'il y a la masse des Français qui sont littéralement terrorisés par la violence et par la criminalité quotidienne. Présent publie ce matin un article sur le viol d'une petite fille de 5 ans par un clandestin congolais érémiste.
Clandestin érémiste,
qui est fabuleux. Enfin,
et en stage de formation d'éducateur
pour enfants. Oui. Il a violé une petite fille de 5 ans dans un compartiment de chemin de fer. On croit, mais vraiment, c'est comme la campagne électorale, la campagne politique, la campagne électorale. Si on avait demandé à moi, par exemple, qui suis, Dieu sait, pas un démocrate, d'imaginer ce qu'il peut y avoir de pire comme campagne électorale dans une démocratie, j'aurais pas osé imaginer le dixième de ce qui se passe aujourd'hui, avec la brutie de Matignon qui dit que le crétin de l'Élysée est trop vieux et qui, 3 jours plus tard, vient à plat ventre dire « Je suis désolé, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop fort et puis on n'aurait pas dû rapporter ce que j'ai dit ». Enfin, c'est pathétique ce qui se passe.
Bon. Et puis, Et Chirac qui dit, la France n'est pas à feu et à sang.
Oui, ben ça, c'est
on est en train de lancer des grenades dans les commissariats de police. Ah,
c'est sûr que vu de l'Élysée avec un cordon de garde républicain.
Non, mais on a entendu aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est Monsieur Chevènement. En Corse, pour lequel les nationalistes sont des fascistes et des révisionnistes. Ouais. Ça, c'est...
Non, mais lui, c'est un abruti, on le sait depuis longtemps. Je dis qu'il a laissé au moins un lobe frontal de l'autre côté du Grand Passage quand il est allé faire un tour dans l'au-delà puis qu'il est revenu.
En fait, il n'est jamais sorti du coma.
Oui, ça, à mon avis, ils ont dû mettre un petit moteur à l'intérieur pour qu'il fasse des gestes. Et le type qui pilote, il n'est pas très, très doué. Ce que je veux dire, c'est que, donc, il y a une masse qui est terrifié, il y a des groupes qui sont, il faut quand même le dire une fois pour toutes, 90 ou 95% des délinquants ne sont pas des Français de souche. Hein? Bon, ça c'est une évidence, enfin. Chaque fois qu'il y a un incident.
Des Congolais clandestins.
Oui, des Congolais clandestins. Et alors ce qui est très drôle, c'est que, donc il y a ça, et alors qui eux sont naturellement de plus en plus violent du fait qu'ils voient que les gens ont peur. Pourquoi les gens ont-ils peur? Parce qu'ils savent bien que la police ne les défendra pas. Pourquoi la police et la justice ne les défendra pas? Pourquoi la police ne les défend pas? Parce que la police sait que si elle bouge un poil, elle est caramélisée. Si un flic a le malheur de faire un geste, il a les pires emmerdements de la terre. Les juges, pourquoi ne font-ils rien? Parce qu'ils sont les complices objectifs d'un système qui est totalement pourri, parce que la magistrature en France est très majoritairement pourrie, et que personne n'ose broncher dans cette histoire. Et tout ça sous le regard de la police de la pensée qui est représentée dans la presse, par la presse. Et la preuve, une des preuves, c'est le titre, on le remarquait avec Camille tout à l'heure, le titre du Monde ce soir, qui est ahurissant. Enfin, on croit rêver quand on lit.
Il est surréaliste au sens propre.
Ah mais oui, absolument. La violence s'empare des mineurs. Comment la violence? Alors la violence, c'est une espèce de truc,
une abstraction
qui plane au-dessus de la terre et qui fond sur les mineurs,
monstre.
Comme un aigle fond sur un agneau. Oui. Mais c'est pas ça du
tout. C'est pas la violence et c'est pas les mineurs.
Voilà. D'abord, c'est pas des mineurs, ce sont des voyous. Largement adolescent, mineur, oui, mais enfin mineur, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous comprenez, quand vous avez un gosse de 15 ans, hein, qui fait 1m95 et qui pèse 103 kilos en face de vous, et qui passe ses après-midi payé à faire du karaté et du kickboxing, qu'il soit mineur, ça change pas grand-chose. Hein. Oui. Une fois que vous avez pris une patate, vous l'avez bien prise, la patate. Et il n'est pas question de le tirer par l'oreille jusque devant le proviseur pour lui dire, si tu continues, tu vas avoir une grosse fessée. Parce que la fessée, personne n'osera lui mettre. C'est ça la vérité quotidienne. Hein. C'est des gangs de voyous qui terrorisent le métro, qui terrorisent les autobus. Bon, enfin, on voit ça sans arrêt. Vous êtes dans un bus en train de voyager tranquillement. Vous avez 5 ou 6 voyous qui montent avec leur dégaine, leur survêtement, leur casquette à l'envers, qui commencent à chahuter au prochain arrêt.
En fumant.
En fumant, naturellement, en crachant, en fumant, avec le poste de radio sur l'épaule, etc., avec leur musique de taré. Et au prochain arrêt, l'autobus se vide instantanément. Toutes les mémères qui ont pu échapper, et toutes les mémères, et tous les pépères, et tous les gens comme moi qui ont pu échapper au drame, ils se dépêchent de se débiner. Et comme par hasard, ils se trouvent vraiment d'urgence quelque chose à faire au coin de la rue de la Glacière et du boulevard des Gobelins. Hein. Ça, et d'un seul coup, ils ont tous besoin de descendre ici. Et vous imaginez psychologiquement ce qui se passe dans la tête des merdeux qui ont pris de haute lutte le contrôle de l'autobus. C'est les rois de la pompa.
Oui.
S'il y avait une sanction sévère, une fois de temps en temps, pas une fois de temps en temps, d'ailleurs, à chaque fois, eh bien, ça se passerait pas comme ça. Mais comment voulez-vous qu'on applique en France la loi de la tolérance zéro, comme dit l'abruti de l'Élysée? Alors qu'on a à l'Élysée et dans tous les ministères et dans toutes les administrations des types qui sont des corrompus, des voleurs, des pourris, qui s'appliquent à eux la tolérance totale.
Peut-être des tueurs, ou alors, en tout cas des donneurs d'ordre.
Des donneurs d'ordre. Alors ça, on va y venir, parce que je voudrais vous soumettre une hypothèse à propos de la campagne, un épisode de politique fiction que j'ai imaginé dans ma tête encombré.
Alors allons-y pour la fiction.
Tout de suite, monsieur Bach, quelqu'un veut dire un mot?
Non, mais juste un mot. Je crois que ça n'a pas été trop repris dans la presse. C'est un de mes abonnés qui m'a envoyé cette province. Il m'envoie un papier disant bravo Chirac, tolérance zéro. Et en dessous, c'est une coupure. C'est le fin fond du Massif central. Ça doit être la montagne, etc. Le président de la République gracie une clandestine. Qui avait été condamné pour escroquerie à la sécurité sociale et qui faisait l'objet d'une double peine.
Et c'est dans la montagne, ça, effectivement.
C'est la montagne, et elle a la été montagne. Graciée la semaine dernière, et c'est tolérance zéro par le président de la République lui-même. Ouais. Donc il applique même pas ce qu'il promet qu'il va faire.
Mais comme disait l'ancien directeur des ventes de Ricard.
Dans le commissariat, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le commissariat de police qui a été attaqué,
qui a été grenadé,
il dit mais la vidéo a dû l'enregistrer. Il ne connaît ni la loi sur la vidéo, ni la réalité des trucs, car la vidéo dont il a entendu vaguement parler dans les commissariats de police, c'est pour les gardes à vue. C'est pas une vidéo de surveillance permanente. Mais la vidéo. Alors il dit non, monsieur le président.
Mais la presse nous rassure. J'ai vu, il y a une photographie dans le Parisien qui nous dit que. C'est sans importance, les gars sont mineurs, parce que ça s'est passé au moment où il n'y avait personne. On va quand même pas faire une pendule, parce qu'il y a une petite bande de voyous qui ont balancé une grenade dans un commissariat, vous comprenez?
Oui, oui.
Si c'est des militants de nationalistes qui collent une affiche, en disant, ne votez pas Jospin sur un édicule, alors là, on les arrête, ou alors comme ça s'est passé à Nîmes, quand il y a trois militants nationalistes qui partent en gueulant un petit peu du tribunal, parce qu'on vient d'ordonner la remise en liberté des voyous qui ont agressé l'élu
Elisabeth Pascal,
l'élu local du MNR. Alors ceux-là, on les arrête 200 mètres plus loin et on les fout quand même. C'est 14 jours, c'est ça
14 hein jours
14
de,
jours en
3
garde
jours
à vue.
De garde à vue enfin, et la préventive ensuite.
Alors ceux-là,
c'est invraisemblable comme histoire.
Bon, un mot.
Oui, donc je disais dans le cadre des promesses électorales que font l'un et l'autre de nos deux pitres au sujet de la sécurité, je tiendrai juste la phrase célèbre de l'ancien directeur des ventes de chez Ricard : les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.
Ça c'est sûr. Alors ma fiction maintenant. Imaginez que à la suite de plusieurs incendies qui se sont déroulés, qui ont eu lieu là, à Saint-Lazare ces temps-ci, il y a une semaine avant le premier tour, un formidable attentat, comparable à celui de la gare de Bologne, qui fasse 80 ou 90 morts par exemple à Saint-Lazare. Imaginez qu'à la suite de ça, étant donné la clientèle habituelle de Saint-Lazare, il y ait le deuil qui s'installe dans plusieurs cités de la banlieue ouest, et de la grande banlieue ouest, et qu'il y ait, comme ça se passe maintenant systématiquement, quand il y a un jeune issu de l'IMIG qui se flingue avec une overdose, ou qui se tue en bagnole, ou qui se fout par terre avec une mobilette volée, à chaque fois il y a des manifestations, on brûle les voitures, on casse les commissariats. Donc imaginez que ça se passe dans une dizaine de communes de la grande banlieue parisienne, parce qu'il y aurait eu quelques jeunes qui auront été liquidés dans l'attentat, et imaginez que ça prenne des proportions, ce qui est tout à fait imaginable, que ça pète à Rouen, au Havre, à Marseille, à Lyon,
à Clermont-Ferrand,
à Mantes-la-Jolie, etc. Et que le président de la République vienne à la radio en disant « Mes chers Français, la situation est incontrôlable dans la situation actuelle. Je ne peut pas assurer le bon déroulement des élections, et donc j'applique l'article 16 et les élections sont remises à une date ultérieure. Et on fait quoi avec les présidentielles? Il n'y a pas de présidentielle. On attend que la sécurité soit rétablie.
Et elle ne sera jamais.
C'est-à-dire que ça risque d'être un peu difficile, mais imaginez qu'au bout de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, la sécurité soit rétablie. Le président de la République revient en disant « Maintenant, la sécurité est rétablie. Vous voyez, j'ai rétabli l'ordre. Et donc, maintenant, on va pouvoir faire, grâce à moi, les élections démocratiques qui étaient prévues, auxquelles je me présente, bien entendu. » Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Étant donné le niveau intellectuel et le niveau de conscience politique de nos concitoyens, combien il fait? Il fait 53% ou 74%?
Ça dépend de la manière dont les médias marchent ou ne marchent pas. Dépend de la manière dont les médias marchent ou ne marchent pas.
Les médias marcheront, parce que les médias sont vendus.
Ça dépendra si la France gagne la Coupe du Monde.
Si M. Chirac dit, réunit messieurs, messieurs et compagnie pour leur dire, cette fois-ci c'est sérieux, l'argent que vous filez à la presse, il faudra le filer aux bons journaux, et ceux qui ne seront pas bons, vous leur donnerez pas d'argent. Eh bien, il sera réélu, je vous le dis.
Ça dépendra de la télévision.
Mais la télévision, il aura pris le pouvoir. Enfin, dans une situation insurrectionnelle avec l'article 16, vous croyez quand même pas qu'on va laisser les trotskistes de la télévision continuer leur salade. On va dire, mes enfants...
Avec Chirac, mais justement...
Non, mais parce que dans le cas de Chirac, si c'est...
Il va pas nous donner la télévision, ne croyez pas.
J'y crois pas une seule seconde. Non, ce que je crois, c'est que pour lui, le risque actuel... Il n'est pas de perdre les élections. Parce que, à la limite, il s'en fout. Il ira à l'île Maurice avec des liasses de bifton dans les poches et il continuera à vivre comme il a vécu jusqu'à présent. Le problème, c'est que s'il n'est pas réélu, il risque de ne pas pouvoir aller à l'île Maurice. Il risque d'aller dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de gens très bronzés.
Beaucoup plus sombre,
voilà. Mais moins de soleil qu'à l'île Maurice. Il en est parfaitement conscient.
Enfin, tant qu'on a la santé.
Quand on voit l'affaire, tant qu'on a la santé et qu'on freine. quand on lit l'interview de Monsieur Schuller, les propos de Monsieur Schuller dans Le Parisien, on se dit que cet homme-là, il est en train de jongler avec des grenades dégoupillées.
Ah oui.
Ça, c'est absolument évident. Il y a quelque chose. Il est en train de faire chanter un système.
Encore que, s'il dit tout, s'il dit, à partir du moment où il aura tout dit, il risquera plus rien.
Moi, je crois qu'il connaît quand même bien. Je crois qu'il connaît bien le système parce qu'à la différence des autres, c'est un énarque.
Oui.
On oublie toujours parce que M. Schuller, on le présente comme une espèce de petit de gars qui porte des valises. Non, parce que, il était quand même, on l'a oublié, énarque.
Dans un mauvais rang.
Oui, mais dans un mauvais rang, mais dans
quand même un minimum de quotient intellectuel.
Dans une bonne promotion où il y avait beaucoup de gens intéressants, ce qui fait que ça lui a permis, quand il était en cavale ou préparant sa cavale, de voir des gens aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon dans les ministères.
Un bon carnet d'adresses.
Il a un très très bon carnet d'adresses. C'est pas du tout le petit ramasseur habituel.
Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse que de la science-fiction,
l'article 16,
vous l'achetez,
c'est
le
ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Ouais, ça se pratique dans d'autres pays actuellement.
Oui, ça c'est pas. Je n'ai pas d'exemple à l'esprit pour l'instant, mais enfin, en cherchant un peu, on trouvera sans difficulté.
Dans l'histoire de France d'ailleurs.
Aussi.
Depuis que nous avons les 5 républiques.
Voilà, je soumets ça à votre réflexion. Les magistrats de Lyon, ça vous a, enfin les magistrats poursuivis ou au moins poursuivis pour avoir bâclé le dossier des disparus de Lyon, Emmanuel.
Emmanuel qui est tout. Alors je vais demander une question que beaucoup de monde se pose directement à Emmanuel, Serge, si vous voulez bien.
Oui.
Est-ce que ces dysfonctionnements répondent, comme l'a dit le juge Alphen, à des nécessités fraternelles?
Je ne sais pas. Mais la seule chose que je remarque, moi, c'est que on parlait de la presse là, avec les trotskistes, et Jean Madiran nous a parlé souvent à ce micro, il en a parlé dans présent souvent, du rôle du syndicat de la magistrature, qui avait investi la justice. Alors moi, je vais donner deux exemples qui ne sont... Enfin, il y en a un qui n'est pas encore sorti, l'autre, je l'avais indiqué dans ma lettre, c'est peut-être pareil à droite ou à gauche, mais pas quand même à beaucoup d'endroits, parce qu'il faut quand même beaucoup de travail pour recouper tout ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Karl, et qui était à Toulon, et qui avait l'habitude de faire des photos dénudées le week-end, avec des employés, des stagiaires, des gens qui étaient
à Grenoble,
qui étaient plus ou moins prévenus, ce genre de choses. Bon, c'était le responsable départemental du syndicat de la magistrature.
Tiens, c'est marrant, ça.
Mais
ça, mis à la une, ça.
On l'a pas mis. Et alors là, on vous dit maintenant, il y en a un quatrième dont on parle à Auxerre, parce que dans toute cette affaire, ça fait un peu, c'est les films de Claude Chabrol. Mmh. C'est les espèces d'horribles bourgeois gros et laids qui s'en prennent à des handicapés. C'est un peu politique derrière, on raconte des choses et on parle un peu de... On a l'impression d'être dans un film de Claude Chabrol avec Jean-Yann, des trucs assez dégueulasses. Et il y a trois ou quatre jours, on a parlé d'un quatrième magistrat qui va être entendu, qui était dans l'affaire. Moi, j'ai regardé un peu sur les trois, je n'avais pas grand-chose, mais le quatrième, il dit, j'étais détaché à mi-temps pour mon syndicat. Ben, c'est sûr, c'est le syndicat de la magistrature. Voilà. Et ça, on en parle, et alors ça, c'est paru dans aucun journal qui est vendu.
Or, il faut quand même savoir...
Or, quand il y a un malheureux qui est à l'APM, l'association professionnelle des magistrats,
là, tout le monde le dit.
Alors lui, on ne le rate jamais.
Mais en plus, le syndicat de la magistrature s'est toujours présenté comme le parangon des vertus.
De la droiture.
C'est des saints justes. Hein. C'est vraiment, il faut que la justice soit implacable, que les juges soient des saints, et qu'ils condamnent, qu'ils donnent raison à l'ouvrier contre le patron, à la femme contre le mari, au battu contre le batteur, à condition que peut-être des connotations un peu colorisées là-dedans. Mais
c'est vraiment la complicité de la presse. Un trotskiste protège un autre trotskiste. Ouais. Donc on met pas qu'il est là.
Voilà. C'est ça.
C'est-à-dire que le matériel qui est mis en route, ça c'est une spécialité qui a été, je crois, lancée par Le Monde. C'est que un homme de gauche, c'est un syndicaliste, pas un ségétiste, c'est un professeur de ceci, c'est un professeur de cela. C'est-à-dire qu'on lui donne une qualification sociétaire, si je peux employer ce mot.
Sociétale, on dit maintenant.
Sociétale, oui, c'est ça, vous avez raison.
Ben oui.
Une qualification sociétale. Voilà, c'est un syndicaliste, voilà. Bon. Mais si c'est un syndicat... qu'essaie de créer le FN, membre du syndicat que le Front National est en train de vouloir créer odieusement. Voilà.
Ça rappelle les
si on n'a rien pour lui, mais qu'on sait qu'il n'est pas de gauche, on met proche de la droite, proche de l'extrême droite.
On précise
toujours l'information, on la donne. Celui-là, il est proche de la droite. Celui-là, c'est un syndicaliste.
Et ça rappelle les rapports d'Amnesty International où il disait d'une personne il est présumé communiste alors que c'était quand même le fondateur et le secrétaire général du Parti communiste de Malaisie.
Oui.
C'est un peu comme si on mettait, par exemple, pour la France, Monsieur Maurice Thorez, présumé communiste.
Non, mais je voulais rappeler pour le syndicat de la magistrature que avant qu'il y ait le syndicat de la magistrature, il y a l'école nationale de la magistrature, et que là, c'est encore un héritage de Michel Debré.
Et c'est vraiment la pépinière du marxisme trotskiste, du marxisme léniniste dans la magistrature.
Comme la loi Fouché de 1966 a précipité le mai 68, mais portait en germe toutes les lois Edgar Faure et la suite.
Mais pour en revenir aux disparus d'Auxerre, j'en ai fait une petite allusion dans le dernier numéro des Lettres Fersanes. Je suis actuellement sur une affaire d'un genre un peu similaire, dans une grosse ville de l'Est de la France. J'en dirai un peu plus quand j'aurai tous les éléments, mais ça me semble à peu près du même acabit.
Et alors, pour terminer sur la question de la sécurité, je voudrais vous faire écouter un enregistrement qui me paraît qu'un auditeur de Radio Courtoisie m'a apporté. C'est pas un scoop, mais c'est assez intéressant parce que c'est un auditeur de RTL qui téléphone à Christophe Ondelat en direct à l'antenne pour lui raconter ce qui lui est arrivé. Vous allez voir, vous allez entendre, mais avant je voudrais lire alors un message que j'ai reçu qui est absolument caractéristique du fonctionnement de la criminalité et surtout du comportement des institutions en face de la criminalité en France. Dimanche 17 mars à Sallanches en Haute-Savoie, les gendarmes font un contrôle d'identité dans la rue du commerce. Les gendarmes, à la suite d'un contrôle, de ce contrôle, des jeunes voyous se ruent sur un gendarme, le blessent, le bâtonnent, le maltraitent. Les gendarmes demandent du renfort. Qui arrive, on arrête 8 voyous. 2 sont mis en prison à Chamonix, 2 sont mis à Chamonix, 2 sont mis en prison à Sallanches, 2 sont mis en prison à Bonneville. Et 2 sont remis en liberté. Les 2 qui sont remis en liberté reviennent dans le village, ils brûlent 6 voitures dans le quartier de Vouilloux, en protestation contre l'incarcération de leurs 6 complices. Les faits sont relatés dans le journal Le Dauphiné Libéré, mais les chaînes de radio n'ont pas donné l'information. Voilà. Voilà ce que me raconte un auditeur de Radio Courtoisie dans cette région.
La presse a des ordres pour ne pas donner l'information. Je vois par exemple chez nous, à Clermont-Ferrand, il y a eu 6 voitures incendiées dans la commune de Chamalières. Je précise pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'Auvergne, Chamalières, c'est à peu près l'équivalent de Neuilly-sur-Seine à Clermont-Ferrand. 50 voitures ont été saccagées dans la commune de Beaumont le même jour dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Beaumont, pour les auditeurs, pareil, qui ne seraient pas
Auvergnat,
Beaumont, c'est à peu près l'équivalent de Meudon pour Clermont-Ferrand, c'est-à-dire deux communes assez aisées. Le quotidien local La Montagne, qui a le monopole, n'en a pas mis une ligne.
Alors
on
va écouter cette...
On a joué un mauvais tour, nous avons joué un mauvais tour, et Rivarol aussi, à la presse de province, parce qu'il y a eu pendant des mois, où la presse de province disait en clair, les Maghrébins ont fait ceci, il y a des voyous noirs qui ont fait cela, donnait automatiquement l'origine ethnique des délinquants, des faits divers qu'ils rapportaient.
C'est vrai.
Et nous disions, et nous avons écrit, je sais que souvent... ah ah, la presse de province est beaucoup plus libre. D'ailleurs, elle va le sentir quand même, parce que la raison que nous invoquions demeure, c'est qu'elle parle aux gens de choses dont ils sont les témoins.
Mais c'est difficile.
Et alors, ils peuvent dire pourquoi ils peuvent.
C'est même comme les éditions régionales du Parisien, par exemple.
Oui.
Qui sont légèrement plus courageuses
parce qu'il y a des
témoins.
Oui.
Mais en effet, la presse est devenue beaucoup plus discrète.
Elle est
devenue discrète, cher Jean, quand nous avons été poursuivis pour notre rubrique Société plurielle, qui n'était faite qu'à partir de coupures de presse. Généralement envoyés par des lecteurs de province. Et dans la mesure où nous avons été poursuivis, puis finalement condamnés d'ailleurs en cassation pour
incitation
à la haine contre la communauté immigrée, notion que Madame Ractemadou avait considérée comme un monstre juridique dans son arrêt où elle nous avait relaxé en première instance. En effet, il est très rare maintenant que les journaux de province donnent les prénoms.
Oui.
Il y a les initiales,
oui, parce
que les
maintenant,
prénoms sont évidemment transparents.
Bon. Alors, je parlais tout à l'heure de l'attitude de la presse qui parle de la violence qui s'empare des mineurs. Il y a dans ce numéro du Monde un entretien avec un certain Éric de Barbieux, qui est l'auteur d'un rapport sur les mécanismes de la loi du plus fort dans les quartiers, lequel Éric de Barbieux critique l'hystérie collective sur l'insécurité. Donc ça y est, on va nous resservir la fameuse hystérie sécuritaire, qui était une invention de Badinter. Et voilà, donc enregistré, piqué à RTL, un exemple de ce qu'est la réalité de l'insécurité et de la criminalité vécue au quotidien par un Français moyen.
Claude est intervenu mardi à l'antenne suite au drame d'Evreux. Donc au cours de ce drame d'Evreux, un père de famille qui souhaitait intervenir parce que son fils était racketté a été tué, passé à tabac et mort des suites de ses blessures par une bande de jeunes. Et Claude nous avait appelé en disant il arrive la même chose à mon fils, c'est-à-dire mon fils est racketté. Je suis allé au commissariat, on n'a pas voulu prendre note de ma plainte, j'ai attendu 6 heures. Bon, ben finalement, je sais pas quoi faire, mais jeudi prochain, nous disait Claude, jeudi prochain, j'irai voir les racketteurs de mon fils parce que je peux pas les laisser continuer. Bon, on lui avait dit Claude, c'est risqué, regardez ce qui est arrivé avec ce monsieur, il nous a dit j'irai quand même. Claude est là avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Christophe.
Qu'est-ce que vous avez fait hier?
Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai écouté un peu les conseils de tout le monde, parce que j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit que j'allais droit dans le mur. Et bien ce que j'ai fait, j'ai été chercher mon fils en voiture à la sortie du lycée, et juste devant le lycée, il est monté dans la voiture, puis on est parti, on a évité le contact. Parce que il semblerait que ce soit vraiment pas une chose à faire.
Et vous attendez ?
J'ai pas fait attention. Ces gamins ne sont pas devant le lycée. Ils sont quand même un peu plus loin. Ils sont sur la route parce que le proviseur pourrait demander à ce que la police arrive. Et ils le savent très bien. Mmh. Donc ils vont se mettre un peu plus loin pour pas être vus. Ceci dit, moi, j'ai été dans un autre commissariat dont dépend le lycée, au commissariat du 11e. Qui se trouve dans la mairie du 11e arrondissement, métro Voltaire, pour porter plainte. Et bien là, je suis tombé sur un policier qui m'a dit, qui nous a reçus, mais qui nous a fait comprendre pendant à peu près 20 minutes avec mon fils que là où encore, ça ne servait à rien de porter plainte, qu'il voulait bien prendre notre plainte, mais qu'on perdait notre temps, que pour si peu, ça valait pas le coup, que notre fils n'avait pas été abîmé physiquement, qu'on n'avait pas d'ITT, à savoir c'est une interruption temporaire de travail, et comme il n'avait pas d'ITT, en aucun cas la police ni la justice ne s'intéresseraient à son cas. Donc là encore on est reparti.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris de plainte?
Non.
Vous avez fait ce qu'on appelle une main courante?
Même pas, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit que si on voulait, on pouvait le faire, mais pendant 20 minutes, ils nous ont dissuadés de le faire en disant ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, la justice ne fera rien et nous ne ferons rien. Alors mon fils lui m'a dit, papa écoute, on s'en va, j'en ai marre, et on est parti.
Mais pour lui, pour vous, bon, qui êtes plus âgé. Oui.
Voilà, bon, la suite est moins intéressante. Encore que dans la suite, le père raconte comment son enfant, quelques mois auparavant, a été renversé par une voiture qui lui a brisé la colonne vertébrale, brisé les jambes, brisé les côtes, et qui était naturellement une voiture de rodéo conduite par des voyous. Par les voyous, voilà. Je ne sais plus comment il faut dire maintenant, parce que...
Alors ça c'est très curieux que ça soit le commissariat du 11e, parce que là, je fais part d'une expérience personnelle. Quand j'habitais, Serge, vous vous en souveniez peut-être, quand j'ai commencé ma carrière au Libre Journal, j'habitais à l'époque rue Oberkampf.
Brillante carrière.
Voilà, oui. Rue Oberkampf, dans le 11e. Et donc un jour, on m'a volé mon vélo, qui était mon moyen de transport à l'époque. Et j'avais été porter plainte au commissariat... Enfin, j'avais voulu aller porter plainte au commissariat du 11e arrondissement, donc le fameux commissariat qui est dans la mairie du 11e, où le flic de garde m'a littéralement fichu dehors en me disant: vous n'allez pas nous faire CH 3 petits points pour un vélo.
Ouais. Voilà. Donc ça pourquoi? Oui.
Oui, et on rejoint Camille. Un peu la campagne, la promesse de Jospin de un toit pour chaque SDF. Quand j'ai trouvé l'appartement que je venais d'acheter squatté par une famille malienne, il m'a été impossible de porter plainte parce que dans la mesure où je n'y habitais pas et où les propriétaires qui me l'avaient vendu n'y habitaient pas non plus, il ne s'agissait que d'une contravention, non pas d'un délit, bien qu'il y ait eu effraction, et occupation, évidemment, mais simplement d'une contravention de quatrième classe que je pouvais, à la rigueur, inscrire sur la main courante.
À la rigueur. Enfin,
à la rigueur.
Je voudrais juste intervenir sur ce point. Je suis pas d'accord avec le fait de dire que ça sert à rien de porter plainte, et pas seulement pour augmenter les statistiques de la délinquance et essayer de mesurer plus justement la criminalité.
Ben, je crois que personne. Il faut toujours. Celui qui dit ça, c'est le policier.
Oui, mais il faut toujours insister pour porter plainte dès qu'on a des menaces, dès qu'on est attaqué. Et c'est un peu lourd, mais il faut pas hésiter à le faire plusieurs fois, parce que le jour où on passe à l'action, on décide de se défendre, on peut dire, on a été menacé 5 fois, j'ai porté 5 fois plainte,
rien n'a été fait.
Ce n'était pas de la rigolade, puisque je suis allé au commissariat, et regardez, j'ai été obligé de défendre mes enfants. Voilà. Et c'est très efficace. Et c'est surtout pour ça, en plus, qu'ils veulent pas qu'on porte plainte. Parce que après, on peut plaider, bon, je dis pas prendre des armes, mais se défendre normalement, on peut plaider au moins la légitime défense.
Et là, je crois que c'est ce matin ou hier, il y a un gars qui était dans sa voiture, on a tenté de l'arracher de la voiture et de le voler, le gars a sorti un flingue qu'il avait dans sa voiture, et il a buté tout simplement le type qui essayait de l'extraire de la voiture et de lui voler la voiture. Alors, ce matin, à la radio, c'était, vous vous rendez compte, c'est horrible d'en arriver à tuer pour une voiture.
Oui, voilà. Mort pour une voiture.
Alors ça, c'est comme les gens qui meurent pour 10 francs. Voilà. Hein, il a attaqué une banque, elle venait d'être vidée, il y avait que 2000 francs dans les caisses, et il a tué pour 2000 francs. Il a tué la caissière pour 2000 francs. Ah, évidemment, s'il avait tué pour 2 milliards, là, ça valait le coup, quand même. Mais pour 2000 francs, c'est vraiment trop bête. Bon. Voilà, bon...
Remarquez le traitement médiatique, parce qu'on était là-dessus. L'affaire de la Seine, où ce courageux père de famille, Thierry Ferrer, si mes souvenirs sont exacts, a exécuté celui qui avait violé sa gamine. Plusieurs journaux ont parlé de violeurs, de présumés violeurs.
Oui. Bon, mais j'ai vu mieux. J'ai vu un journal qui reprochait, ça c'est quand même extraordinaire, qui reprochait au père d'avoir tiré dans le dos.
Oui.
Du présumé violeur. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait dû lui dire « Mets-toi bien en face pour que je t'allume d'une balle dans la tête ». Non, il a tiré dans le dos, le gars. Probablement parce que quand il a vu le père de sa victime, oui, entrer avec un fusil, il a dû pas avoir eu envie de se précipiter sur lui, mais plutôt de faire demi-tour pour se tailler par la porte de derrière. Et l'autre lui a pas laissé une chance, ce dont je le félicite officiellement ici. Voilà, et j'ai décidé de créer un prix, un abonnement gratuit à toute personne qui rapportera une paire d'oreilles. Tiens, ça c'est le prochain, comment appelle-t-on ça, zapping de Canal+. Je suis bon là. Mmh. Voilà. Alors, vous voulez dire quoi?
Non, c'est bon,
tout.
C'est...
Vous voulez aussi proposer un abonnement gratuit à celui qui apporte une paire d'oreilles?
Alors, si vous jouez les oreilles, puisqu'on va rester dans le contexte balkanique.
Non, n'en dites pas plus. J'ai compris. N'en dites pas plus. Vous voulez donner la parole aux auditeurs?
Un petit peu, oui.
Mais depuis vous êtes l'avocate des auditeurs.
Depuis le début de l'émission, merci pour l'hommage joyeux à ce grand combattant qui était André Figueras. Honnêtement, nous devons reconnaître que le Figaro qui avait consacré pendant 3 jours successifs une... Nous devons reconnaître le Figaro qui avait consacré pendant 3 jours successifs une pleine page à la guerre d'Algérie et au malheur des pieds noirs et des harkis. Adhérent de la FNACA, je ne suis pas allée à la manif du 19 mars car je trouve scandaleux que l'on commémore cette date.
Eh bien, il faut démissionner de la FNACA puis adhérer.
C'est pas que la FNACA est communiste.
Elle n'est pas communiste. Ça a été prouvé officiellement par de nombreux procès.
Elle est proche du communisme.
C'est beaucoup plus complexe que ça.
La Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie est une association dont on peut dire officiellement qu'elle n'est pas dépendante du Parti communiste. De même que Goldman n'était pas l'assassin du pharmacien, des pharmaciennes du boulevard du Charles Noir.
Et de même que la CGT est composée de syndicalistes.
La CGT et l'UMRAP ne sont pas des organisations proches du Parti communiste.
Voilà. Tiens, à propos de la CGT, attendez, je redonne la parole aux auditeurs tout de suite. Je voudrais vous montrer ce que c'est. Parce que la CGT, c'est plus rien. C'est un corpuscule à l'intérieur d'un animalcule qui s'appelle le Parti communiste.
Ah oui, mais attention, la CGT, c'est encore un prétendu service d'ordre.
Oui, c'est ça.
Qui est. Qui fonctionne au doigt et à l'œil.
Je vais vous montrer à quel point il sème la terreur. La terreur.
Ah ben justement.
Lors d'une émission de Marc-Olivier Fogiel, José Bové, qui est quand même courageux, il est allé en tôle. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le problème. Mais il est courageux, il s'est frité avec les CRS, il y va, il est allé en tôle plusieurs fois, etc. Il a quelque chose. Bon. Donc il avait dit, on l'avait interviewé sur le syndicat de la presse et l'attitude du syndicat communiste de la presse, CGTiste, et il avait dit, c'est le dernier bastion stalinien. Alors voilà la lettre que publie, le message que publie le journal édition spéciale, journal gracieusement offert par les travailleurs CGT de la presse parisienne qui espèrent vous apporter ainsi une information différente. Ça ne t'a qu'à croire.
Ils font des journaux gratuits.
Ben oui, bien sûr.
Le syndicat du livre.
Ben oui, t'as qu'à faire. Alors voilà, joint par téléphone. Écoutez bien, vous allez voir ce que fait faire la trouille. Joint par téléphone, José Bové a bien voulu s'exprimer à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de cette déclaration. La CGT Presse est le dernier bastion stalinien. Le contact s'établit chaleureux et direct. José Bové nous fait savoir sans attendre qu'il ne redoute pas de porter un jugement critique sur son expression.
C'est comme plus pas.
Hein, c'est joli ça. Alors écoutez. Je me suis fait piéger à la fois par l'exposé du journaliste et par la nature même de l'émission qui interdit de traiter les problèmes sur le fond et n'autorise de la part des invités que des réponses rapides et insuffisamment approfondies. J'aurais dû dissocier la forme et le fond. Encore que même sur la forme, j'aurais dû être plus circonspect sur les soi-disant méthodes musclées qui n'ont pas été avérées. Je ne me suis pas tenu informé des évolutions qui n'ont sans doute pas manqué de s'opérer dans vos structures. Et en tant que responsable syndical, je n'aurais pas dû porter un jugement si hâtif. Il est vrai que je suis particulièrement sensible au problème de la pluralité syndicale, dans la mesure où nous avons mis des années à l'imposer dans notre propre mouvement. Il n'y a là aucune ambiguïté. Je comprends parfaitement le danger que représente Métro et ses confrères pour la presse française, tant du point de vue de la préservation des conventions et de l'outil de travail des ouvriers de ce secteur, que de celui de l'indépendance et de l'information. Si le travail de l'AFP relève d'une vraie démarche journalistique, je vous jure que c'est écrit, hein, le choix des dépêches dans un journal uniquement appuyé sur la publicité peut être en revanche porteur d'une ligne éditoriale axée sur le business, visant plus à ramasser du fric qu'à fournir l'information, ce qui n'est le cas d'ailleurs d'aucun autre journal, il faut bien le dire. Voilà. Consultise, José Bové partage notre combat contre la marchandisation de l'information.
Elle est courte, alors, la laisse.
Hein. Oui, non, mais... La laisse est extrêmement courte. J'espère que la gamelle est bien pleine.
Hein? Attention, rien ne prouve que José Bové ait dit tout ça.
Non.
Et il n'aura aucun recours.
Mais bien sûr que non.
Et il n'aura aucun recours. Ils lui font dire ce qu'ils veulent.
Cela dit, j'ai l'impression, je voudrais pas être désagréable, mais que José Bové dit un petit peu n'importe quoi. Parce que j'ai lu l'autre jour une interview de lui dans un journal qui s'appelle La Lozère. C'est ça, La Lozère? L'écho de La Lozère, la Gazette de La Lozère?
Je crois que ça doit être la Gazette de La Lozère.
Ouais. Alors il dit... Attendez, comment il dit ça? Oui, les chouans Voilà. Les Chouans ont eu bien raison de se défendre. D'ailleurs,
le combat des Chouans était juste et légitime.
Voilà, le combat des Chouans était juste et légitime. Et si j'avais été en Vendée à cette époque-là, j'aurais été Chouan.
Il s'est fait épingler pour ça, le seul Chouan de Vendée d'ailleurs.
Voilà.
il s'est fait épingler pour ça dans un hebdomadaire qui paraît le lundi. Le titre m'échappe. Je crois que ça doit être Myriam ou quelque chose comme ça qui paraît le lundi.
Ah, j'ai pas vu ça dans Myriam.
Mais sur José Bové, il faut interroger Emmanuel Ratier.
Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Emmanuel, sur José
Bové? Mais on y en aurait pour deux heures.
Bon. Bah tiens, puisque vous voulez pas prendre la parole, je vais vous la donner quand même.
Oui, moi je vais vous poser une question.
Oui, posez donc.
Comment fait monsieur Gluckstein?
Pour avoir ses signatures.
Non, parce qu'il est 7h15 là.
Oui, non, mais attendez.
Faut quand même qu'on parle de la campagne présidentielle. Et alors, personne ne connaît monsieur Gluckstein, il a 500 signatures.
C'est peut-être parce que personne ne le connaît qu'il a les signatures.
Je trouve ça éblouissant, moi.
Et bah, c'est pas compromettant, monsieur Gluckstein.
Non, mais il a reçu. Attendez, vous le savez très bien, vous faites
oui.
l'âne pour avoir
oui.
du son, là. Bah, alors expliquez-nous.
Quand vous voyez Madame Lepage, qui va être candidate, qui va faire 0,4%, Monsieur Miguet, bon, finalement, semble-t-il, d'après, on en a parlé, il serait pas candidat, mais enfin, il avait quand même à peu près 180 signatures.
Le journal de Miguet.
Il avait à peu près 180 signatures. Bon.
Et d'ailleurs, alors, vous voyez, j'ai laissé croire, dans certaines de mes interventions, que Miguet n'était pas quelqu'un de parfaitement rigoureux. Et je peux porter témoignage du contraire. Il est parfaitement rigoureux parce que quelqu'un lui a proposé d'acheter ses signatures, 10 000 balles le bout, et il a refusé. Alors que quand même, 180 signatures à 10 000 balles, ça fait 1 800 000, si je sais encore compter. Avec ça, on peut se payer un voyage à l'île Maurice
et acheter
des tapis en liquide. Mais il a dit non, et il a même dit à la personne qui est venue le voir, tu me fais rigoler avec tes 10 000 balles par signature, je suis plus riche que toi, je suis plus riche que le président de ton parti, je suis plus riche que ton parti, et je vous emmerde. Voilà, ça c'est textuellement ce qu'il a dit. Donc un type qui peut cracher sur 1 800 000 francs, finalement, je me demande s'il ne mérite pas une certaine considération.
On votera pour lui au deuxième tour, comme
voilà,
avait dit ADG.
C'est ça, exactement. Alors, vous disiez ?
Non, mais il y a beaucoup de gens qui vont être candidats
Gluckstein.
Qui sont totalement inconnus. Et puis, il y en a d'autres.
Comment, Gluckstein ? Vous ne voulez pas me dire que vous ne connaissez pas Gluckstein, quand même ?
Non, c'est absolument scandaleux, quand même.
Jean-Claude Varane n'est pas là ce soir parce que Jean-Marie Le Pen n'a pas ses signatures. Bon, on peut le dire quand même, avec
non, mais
les allusions qui sont faites, il ne les a pas,
non.
Contrairement à des gens qui pensent que c'est une espèce de manipulation médiatique pour passer plus à la télé et essayer de
reprendre ses troupes en main. Non, mais ça, c'est la presse qui dit ça.
Mais réellement, il n'a pas ses signatures, parce qu'il y a eu une campagne orchestrée par l'Élysée et le RPR, qui utilise ses secrétaires départementaux cantonaux. Dès qu'un maire signe, en plus avec l'intercommunalité, on leur interdit le rond-point, la piscine, etc. Et donc les gens retirent leur signature. Et il y a toutes les chances qu'il y ait quelqu'un qui est pratiquement à 12 ou 13% dans les sondages en ce moment, qui ne soit pas candidat au premier tour des élections présidentielles.
C'est le summum de la démocratie, à mon avis,
de voir que quelqu'un qui fait 0,04% des voix est candidat et que quelqu'un qui pourrait en faire 13 ou 15 ne risque de ne pas l'être.
Oui, mais c'est l'aboutissement d'un processus qui est un processus qui a
toujours été comme ça dans la République, dans les républiques
françaises. Non, mais là, c'est quand même particulièrement indécent.
En 80, il n'a pas été candidat, mais il faisait 0,74, à peu près 0,7.
Mais là, quelqu'un qui a eu à deux reprises 4,5 millions de voix, c'était mon éditorial de la semaine dernière, leur démocratie bafouée, il y a là de quoi, on voudrait nourrir le sentiment des Français contre la politique, s'y prendrait pas autrement, qu'on le dise.
Si on se met dans
les dégoûts totalement de la chose publique et
si on se met à la place de ces gens-là, quel est leur calcul? Ça fait, donc vous l'avez dit, deux mandats présidentiels que Le Pen et le Front National sont radicalement exclus des médias, sauf pour se faire cracher à la gueule à chaque fois. Sur tous les sujets. On a tout fait. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, malgré cette exclusion, qui interdit absolument de présenter des idées et des programmes, la droite nationale reste imperturbablement autour d'intentions de vote déclarées de 10 à 12%, ce qui donne comme résultat 15% dans les urnes. Comme ça fait deux mandatures que ça se passe, à la troisième mandature, ils se sont dit tout simplement, il faut changer de système. Il faut en finir avec ces gens-là. Donc, comme les interdire de médias, les interdire d'expression et n'utiliser les médias que comme une arme contre eux ne suffit pas à les faire disparaître, alors on va utiliser l'arme absolue pour les faire disparaître, de même que M. Bush est prêt à envoyer une bombe atomique sur la Corée du Nord, sur l'Irak et voire même sur la Russie comme il l'a dit, eh bien nous on va envoyer une bombe atomique sur le parti, sur la droite nationale, on va faire exploser la droite, non pas exploser, on va détruire, éradiquer la droite nationale du paysage politique en lui interdisant de figurer. Parce que j'entends autour de moi dire oui mais si Le Pen ne se présente pas les gens voteront pour Maigret. C'est pas vrai. Ça, c'est un mauvais calcul. Non. J'ai vu une note de Le Gallou qui disait ça.
Le contraire serait plus vrai.
Mais bien sûr. Mais là, c'est absolument pas vrai, parce que les électeurs naturels ou habituels ou fidèles du Front National vont dire « c'est fini, on en sort ». On n'en veut plus de ce régime de répugnant, de magouille, de voleur, de truand, qui maintenant nous vole jusqu'à notre droit de vote. Donc c'est terminé, on n'y va plus, ce qui va encore ajouter à l'abstention. Mais moi, ce que je crois réellement, c'est que il y a à l'heure actuelle un processus qui est engagé pour supprimer l'expression normale des citoyens dans le débat, non pas politique, mais dans le débat de la gestion des affaires des pays, des entités. Et je me souviens d'un film qui est sorti, qui a été diffusé il y a une vingtaine d'années, je crois une vingtaine d'années, qui s'appelait Rollerball. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Bon.
Dans Rollerball, alors c'était un film de science-fiction ou de politique-fiction, un peu nunuchard comme ça, l'histoire, ça se passe autour d'un grand sport qui consiste à faire du patin à roulettes autour, à faire du football, enfin pas du football, c'est un jeu de balle avec une balle en acier qui se joue sur un anneau de vitesse avec des patins à roulettes. C'est d'une violence extraordinaire, les gars ont le droit de se tuer, etc. C'est une espèce de jeux olympiques de la violence spectaculaire et du sport violent spectaculaire. Dans l'imaginaire de l'auteur, chaque joueur représente une entité, comme aux Jeux Olympiques, chaque joueur représente une nation. Mais là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente des grandes sociétés. Et on découvre à travers ce film que le monde n'est plus du tout géré par des États et par des gouvernements politiques, il est géré par des conseils d'administration d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de très grosses sociétés internationales, l'équivalent de Vivendi Universal, de World, je sais pas quoi, enfin, et qui gèrent le monde et qui sont donc en conflit ou en accord, exactement comme des pays. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France, et en Europe, et dans le monde, quand on voit l'histoire de la guerre d'Afghanistan, enfin, des bombardements de l'Afghanistan pour le pont des pétroliers, des choses comme ça, on se dit que c'est vers ça qu'on est en train de s'orienter. On est en train de s'orienter vers une disparition progressive du contrôle politique, de la gestion politique des nations, pour une gestion qui vont nous appeler une gestion par, comment ils appellent ça, la société civile.
Voilà.
C'est-à-dire le business.
Et je dirais que dans Rollerball, ils vont même beaucoup plus loin, puisque les clubs qui jouent dans Rollerball portent de vrais noms de clubs actuels. Soit donc, je sais que j'ai souvenance de quatre clubs impliqués dans le film. À un moment, ils parlent, dans les quarts de finale du championnat du monde de Rollerball, ils parlent du Real de Madrid, qui est le plus grand club de football en Espagne. Ils parlent à un moment des Houston, donc le héros joue aux Houston Rockets, qui est le plus grand club de basket de Houston. Ils affrontent en finale les Giants de New York, qui est le plus grand club de baseball, et en demi-finale, les Giants de Tokyo, qui est le plus grand club de baseball japonais.
Et on voit ça, on est au bord de ce genre de choses, quand on voit la carrière d'un tapis, par exemple, qui est à la fois un homme d'affaires un peu truand, directeur d'équipe sportive, personnage de l'univers des médias, etc. On voit bien qu'il est en train de se créer une espèce de nouvelle façon de gérer les affaires de la politique, et que ça va dans ce sens-là. Et là, dans ce cas-là, on n'a plus du tout besoin de partir partis politiques qui expriment les idées politiques des citoyens.
Et on parlait justement de l'émergence des partis de certains partis de droite nationale en Europe. Mais je pense que Berlusconi a eu un succès électoral assez important dû au fait, entre autres, qu'il soit le président du Milan Athletic Club, ou Milan AC, qui est l'un des plus prestigieux clubs italiens. Si Jesús Gil, en Espagne, a raté son entrée en politique, pourquoi ? Parce que son club de football, l'Atlético de Madrid, était relégué en division 2. Et il y a un cas qui est en France symptomatique, c'est aux dernières cantonales, monsieur Hervé Révelli, ancien avant-centre vedette de l'AS Saint-Étienne, s'est présenté aux élections cantonales dans le canton de Saint-Étienne-Nord contre le candidat communiste sortant, un canton où le parti communiste faisait toujours 100% au deuxième tour, tout simplement parce que c'était toujours un deuxième tour PS-PC que le PS sortirait. Monsieur Révelli, qui s'est présenté d'hiver droite et avec sa notoriété d'avant-centre vedette de l'AS Saint-Étienne, a mis en ballottage le communiste et a manqué de très peu l'élection au second tour. Pour vous dire l'importance des sports dans la société actuelle.
Conclusion, Loana présidente. Voilà.
Bah dites-nous, vous êtes désespérant pour les pauvres auditeurs.
Eh hein. Ben, donnez-leur la parole.
C'est même pas la peine.
C'est même pas la peine. Vous allez ramasser.
Tout ce que vous dites sur la sécurité est exact, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les électeurs s'obstinent à reconduire aux commandes les responsables de cette situation. Oui.
Mais c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour faire comprendre.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Parle dans le micro.
Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut en parler encore plus.
C'est-à-dire, il faut dire tout est fichu, tout est perdu.
Non.
Il faut ravager jusqu'à.
Il faut voter pour qui, puisqu'on va pas avoir.
Pour le candidat de la droite nationale qui sera présent.
Arrêtez de jouer avec ce bouchon.
Pour le candidat de la droite nationale qui sera présent au premier tour, en espérant qu'il sera présent au deuxième.
S'il y a un candidat,
à condition qu'il n'incite pas au second tour à voter pour l'un des pitres, comme disait notre ami, qui.
En dehors des pitres, sur qui on peut, à qui on peut donner des voix.
Qui se dispute, non.
Voilà.
Votez Dieu.
Vous pouvez découper un petit carré de papier blanc.
Ça ne sert pas à grand-chose. Excusez-moi, je vous coupe la parole méchamment.
Non, vous ne me coupez rien du tout. Car effectivement, après le vote blanc, il n'y a plus rien à dire.
Voilà, oui, bon alors.
Oh, ça, si des millions de votes de petits carrés, comme dit Jean... Oui. Dans les urnes, il y aura sans doute des journalistes qui suivront le dépouillement du scrutin.
Oui. Mais moi, je crois que
ça n'empêchera pas M. Jospin d'être élu.
Absolument pas. Mais ça peut porter davantage.
Ça peut augmenter le défaut de légitimité du gouvernement.
C'est cela.
Ça diminue
Je crois simplement que c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils veulent.
Moi, je pense que à terme, l'objectif est de décrédibiliser le système, je reviens à ce que je disais à l'instant, le système de gestion politique. Pour le remplacer.
Oui, mais ils ont besoin de gens dans les postes politiques quand même. Oui. Et ils ont besoin que les gens qui sont les serviteurs de ce système soient là, ne fût-ce que pour donner des signatures, mais que pour donner l'impression qu'il y a un gouvernement politique. Il n'y a eu aucune liberté dans la classe politique au sujet de Maastricht, souvenez-vous. Il était bien entendu que toute personne qui voulait être candidat un jour à la présidentielle devait voter oui. Et vous rappelez l'hésitation de Chirac et la raison pour laquelle, qu'on a donnée, pour laquelle il votait oui, il n'y croit pas trop, mais voyez-vous, il faut qu'il soit président, donc il faut voter oui. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires, mais on a besoin que ce soit des hommes politiques qui les représentent.
Bien, on a encore un clan de la presse avant les élections. On vous donnera nos directives.
Ce jour-là.
C'est ça,
mais la date.
Enfin, Victoria attend qu'on lui dise, voilà.
Ah, pour qui voter ?
J'aimerais savoir ce que vous allez faire. Vous allez voter blanc, ça me désole.
Goffman doit lui rappeler des souvenirs de jeunesse à Patrick Goffman. Élection piège à con.
Bah oui, mais.
Voilà, ben je vous remercie. Les adresses, alors si on veut veut présent.
À présent, 5 rue d'Amboise, Paris 2e, demandez qu'on vous envoie notre programme d'abonnement. Ou bien achetez présent à la maison de la presse. Vous verrez si vous ne l'avez jamais fait.
Engraissez les NMPP.
Mais faites attention, parce que si vous commencez à dire présent, vous risquez de ne plus pouvoir vous en passer.
C'est surtout plus pouvoir lire autre chose, parce que après, ça paraît tellement... Marie-Camille ?
Les auditeurs qui le souhaitent peuvent recevoir un exemplaire gratuit en téléphonant au 01 53 34 97 97 ou en écrivant au 1 rue d'Hauteville 75 10 Paris ou en cliquant sur rivarol.com.
Alors, les adresses de...
Également notre revue écrite Paris dans les mêmes conditions.
Les deux autres adresses, les trois autres adresses après la coupure technique. Bon, et ben, il y a un peu d'ambiance, pas, non pas un peu d'ambiance, il y a un peu de désordre parce que bon, ça rentre, ça sort, ça fait du bruit pendant les annonces et tout.
C'est, ça crie.
C'est la guerre civile. Il doit y avoir une lune rousse ou quoi?
Non, il n'y a rien en ce moment.
Rien, bah alors, ça doit aller.
C'est le 28, la pleine lune qui va, et les grandes marées d'équinoxe.
Pleine lune, alors, le jeudi, là, mes enfants, il faut se préparer. Hein. Bien, alors, Emmanuel, je vous ai demandé de rester parce que. On va parler de l'affaire du World Trade Center, plutôt du Pentagone. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez l'air de dire ah bon, il n'était pas question de ça. C'est bien de ça qu'on va parler.
Oui.
Non, ça, je garde encore un peu de lucidité. Mais avant, je voudrais donner la parole à Patrick Goffman pour qu'il nous fasse le point de ce qu'on peut appeler la pétition Limonov. Donc, premièrement, Patrick. Qui est Limonov? Deuxièmement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Troisièmement, qu'est-ce que c'est que cette pétition? Pourquoi a-t-elle été lancée par vous? Et quatrièmement, où en est-elle? Voilà.
Bonsoir Serge de Becquetch et bonsoir à nos chers auditeurs. Vous aviez annoncé tout à l'heure une partie artistique, une deuxième partie artistique avec une pianiste virtuose, un danseur et puis Limonov. Je commence tout de suite à vous répondre, et d'abord et avant tout, un des plus grands écrivains vivants, pour beaucoup le plus grand écrivain russe vivant, n'en déplaise à Solzhenitsyn, à coup sûr un grand écrivain. Et je dois m'excuser auprès des éditeurs qui en auraient assez d'entendre parler du syndicat de la magistrature, des silences de la presse et de la campagne électorale, parce que je dois commencer à vous répondre en disant que j'ai entendu, moi je m'inflige France Inter parce que je la paye avec mes impôts, entre autres raisons, et j'ai entendu Madame Cernin, je crois, présidente du syndicat de la magistrature ce matin, glapir interminablement sur la radio que je paye avec mes impôts, et je ne crois pas être le seul, même ceux qui ne l'écoutent pas sont obligés de la payer avec leurs impôts, parce que, imaginez-vous, la garde des Sottes, Madame Lebranchu, dont on sait qu'elle a été maoïste, mais dont on ne sait toujours pas quand elle a cessé de l'être, cette lâche, cette traîtresse, a eu le front de donner un mandat à un magistrat américain pour enquêter en France sur le cas de Monsieur Moussaoui, tout ça parce qu'il est vaguement impliqué dans un vague attentat qui a causé quelques milliers de morts et que ça risque de déboucher sur une peine de mort. Et je me disais, et je me rappelais que vous aviez été le premier, Serge de Becquetch, sur cette antenne, à rapprocher le cas de M. Moussaoui avec celui de Limonov, en disant, en faisant remarquer que M. Moussaoui, inculpé de participation à un attentat qui a causé des milliers de morts, avait bénéficié le jour même de son inculpation de la protection de l'assistance consulaire sur place aux États-Unis, de communiqués flamboyants de la place Vendôme et du Quai d'Orsay, repris massivement par tous les médias, tandis que le chrétien innocent, le grand écrivain franco-russe, notre concitoyen par conséquent, Édouard Limonov, qui est détenu arbitrairement depuis 11 mois en Russie, il a fallu 9 mois au consul de Moscou pour seulement accuser réception, sans ne rien faire, sans ne rien dire, accuser réception des appels au secours de son avocat, qui concernait notamment des médicaments pour son asthme. Limonov a quand même 59 ans, et les Fortovo n'est pas vraiment un village de vacances. Et notre ami, le journaliste américain en poste à Moscou, Mark Amis, qui téléphonait pour compléter un article qu'il a publié dans son journal anglophone de Moscou qui s'appelle Exile. Il a également un site internet qui est Exile, exile.ru, que je recommande, qui téléphonait au consul, à notre consul à Moscou. Le représentant de ce consul lui a purement et simplement rionné. Alors je m'en excuse donc auprès des auditeurs, mais j'étais obligé de dire un mot du syndicat de la magistrature. Un mot encore sur la campagne électorale, parce que je livre pour ce qu'elle vaut mon interprétation. Je pense que si le gouvernement fait tant de cas et l'extrême gauche fait composante du gouvernement de gauche pluriel fait tant de cas de ce monsieur Moussaoui, c'est certainement parce qu'il a plusieurs millions de co-religionnaires qui s'apprêtent, qui les observent et qui s'apprêtent à voter d'une façon ou d'une autre à l'élection présidentielle et aux législatives ensuite. Et il est clair que le lobby électoral de Limonov n'est pas très important. Un dernier mot sur des sujets que vous avez déjà abordés, les silences de la presse. Nous avons eu, je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons eu l'AFP, un communiqué, une dépêche venimeuse, mais une dépêche quand même, qui donc a circulé dans le monde entier. Nous avons eu par deux fois le journal du soir de 20h de TF1 et de Monsieur PPDA, que je n'appellerai plus jamais PPD, comme une émission d'extrême gauche sur Canal+, m'y avait incité. Je le regrette, je fais amende honorable. Et donc je vais, si vous en êtes d'accord, ça vous paraît pas exagéré, je vais répondre à votre question sur qui consiste à demander de rappeler qui est Limonov et qu'est-ce qui lui est arrivé, par la voix de monsieur Vladimir Pribilovski, parce que dans le silence de la presse, il y a quelques ruptures. En dehors de TF1 et d'AFP, il y a le Libre Journal, par exemple, qui a parlé de l'affaire Limonov par trois fois. Et il y a La Pensée Russe, qui est un vieil hebdomadaire parisien en langue russe. Il en est à son numéro 4400. Et son correspondant à Moscou, monsieur Vladimir Pribilovski, consacre un article à la provocation policière contre Limonov, que nous dénonçons depuis le début, et confirme point par point, avec tous les détails, l'intuition que nous avons proclamée immédiatement qu'il s'agissait d'une provocation et d'une provocation policière. Je lis les quelques lignes extraites de ce long article qui fait toute une page dans Ruska Amisl, la pensée russe du 14 mars. En mars de l'année dernière, des partisans de Barkachov, qui est un dirigeant d'une organisation d'extrême droite, donc assez suspecte, des partisans de Barkachov se sont adressés aux activistes de la section de Saratov du Parti national bolchevique d'Edouard Limonov avec une proposition intéressante. Achetez-nous donc quelques mitraillettes. Les partisans de Limonov, comme nous l'avons expliqué à ce micro et ailleurs déjà plusieurs fois, sont ce qu'on pourrait appeler des terroristes de la tomate et pas du fusil d'assaut. Si le pavé est l'arme du prolétaire, alors l'œuf et la tomate sont celles d'un national bolchevique. Leur méthode, bombarder de tomates Zyuganov, qui n'est pas rancunier, je le dis au passage, c'est le dirigeant du Parti communiste russe qui a demandé qu'on libère Limonov, jeter des œufs sur Nikita Mikhalkov, frapper un prince, le prince Charles, en visite avec un bouquet de roses, mais posséder de véritables mitraillettes, c'est le rêve de n'importe quel adolescent, fut-il attardé, et ceci constitue la colonne vertébrale du parti de Limonov. Bon, Pribilovski est un peu méchant avec Limonov et ses partisans, parce que, il faut le souligner, c'est un homme de gauche. Il n'est pas seulement correspondant de la pensée russe qui ne doit pas lui rapporter beaucoup, c'est un homme politique russe de gauche. Ce qui rend évidemment sa prise de position et ses informations d'autant plus crédibles et d'autant plus intéressantes. Les nationaux bolcheviques ont donc raclé leur fonds de poche pour acheter les armes et se sont fait aussitôt arrêter. C'est ainsi qu'a commencé le démantèlement du NPB, le Parti National Bolchevique, par la police. En dehors des nationaux bolcheviques de Saratov, tous les dirigeants de Vladimir ont été appréhendés, des fouilles systématiques et arrestations ont été alors déclenchées, ne donnant, en ce qui concernait les armes, que fort peu de résultats concluants. À Altaï, c'est Limonov lui-même qu'on a piégé et enfermé à l'Efortovo, où il se trouve encore aujourd'hui. Pourquoi les organes de sécurité s'en sont pris aux terroristes de la tomate du NPB? C'est également un thème intéressant à aborder. Ce parti est quasiment le seul, chez les partisans de la droite musclée, à ne pas s'être laissé séduire par le serment de Poutine de tout remettre au pas et depuis le début à saper de façon conséquente et inventive l'autorité l'autorité du président dans cette fraction de son électorat. La tentative malheureuse des militants de Saratov d'acheter des armes est le seul argument de poids dans les poursuites criminelles entreprises contre l'écrivain excentrique, à présent incriminé de création de bande armée et d'infraction à tous les articles du code pénal, de l'appel à la sédition jusqu'au complot pour prendre le pouvoir par la violence. Ce qu'il y a de caractéristique dans cette affaire, c'est que les vendeurs d'armes sont restés en liberté dans tous les sens du terme. Conclusion, l'opération mitraillette pour le NPB a été montée par l'État, mais cette provocation policière a servi à un but finalement mineur, les intérêts de la lutte des divers clans au pouvoir pour capter l'attention du président. Fin de citation.
Voilà, alors ça c'est bon, ça peut paraître assez éloigné parce que ça se passe en Russie, à une époque où en Russie tout va de travers dans des choses. En plus tout est bizarre parce que entre l'extrême gauche, l'extrême droite, les bolcheviques, les nationaux en Russie, ça fonctionne pas du tout comme en France. Les communistes russes n'ont vraiment plus rien à voir avec les communistes français aujourd'hui. L'extrême droite russe n'a pas grand chose à voir avec l'extrême droite française. Quand on sait qui sont des Jirinovski et compagnie, on voit bien qui tire, qui pousse, qui manipule et qui marionnettise dans ces milieux-là. Donc il faut, pour juger, pour considérer cette affaire, faire abstraction de tout ce qu'on sait de ce qui se passe en France. Et d'autre part, il faut la juger à la lumière de comparaisons simples. Patrick Goffman l'a dit, la comparaison entre le sort du franco-russe Limonov et du franco je ne sais quoi marocain Moussaoui. Après tout, si Moussaoui est français, Limonov l'est tout autant, et il y en a un qui est un assassin et l'autre qui n'est pas un assassin, et il y en a un qui a le soutien de tout le monde et l'autre qui n'a pas et qui n'a le soutien de personne. Et j'ajouterais qu'entre les deux, on pourrait prendre en considération le cas de Michel Lajoie, voilà, qui lui est en prison depuis 12 ans. Depuis 12 ans, il avait 20 ans quand il a été condamné à 20 ans de prison.
12, Serge. 14 ans, 15, puisqu'il était incarcéré en 1987.
Oui. Jugé c'est en vrai, oui, il a été jugé. Il est jugé il y a 12 ans, mais il est en prison depuis 15 ans. Et pour un pétard dans un bistrot turc, qui n'a ni tué ni blessé personne.
Et qui a même pas fait de dégâts.
Et qui l'a posé très certainement à la suite d'une provocation, d'une manipulation policière à laquelle, jeune militant nationaliste, il a participé sans se rendre compte de ce qu'il faisait. C'est une affaire gigantesque, énorme, scandaleuse. Chirac, qui a, il a été demandé plusieurs fois la grâce de cet homme, qui pour l'instant a passé le tiers, plus près de la moitié de sa vie en prison. C'est monstrueux cette histoire, monstrueux. Chirac a refusé sous la pression des crapules immigrationnistes qui ont pratiquement fait son siège pour lui interdire de gracier Lajoie. Et on est donc dans cette situation. Si vous êtes européen, que ce soit franco-russe ou franco-français, on vous traite vraiment comme de la merde. Si vous êtes franco-marocain, franco-algérien, franco tout ce que vous voulez, franco-tunisien, si vous êtes albanais, vous avez tous les droits. Véritablement, c'est intolérable. Alors, je parle de cette histoire, je demandais à Patrick de venir parler de cette histoire Limonov, parce que elle me paraît éclairer d'une façon lumineuse notre situation aujourd'hui. Et ça n'est pas pour lancer un appel à la signature des pétitions, parce que, Patrick, vous avez voulu faire une pétition qui soit une pétition corporatiste, disons-le clairement, uniquement réservée aux écrivains et aux éditeurs.
Voilà, alors quand vous m'avez déjà très aimablement reçu il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, je faisais état d'une cinquantaine de signatures. Nous avons maintenant passé le cap de la centaine de signatures qui sont à peu près toutes, en dehors de la mienne et de quelques autres, celles d'écrivains et d'éditeurs, et non seulement d'écrivains et d'éditeurs, mais parmi les plus prestigieux. Je citais la dernière fois les patrons d'Albin Michel, des éditions du Rocher, et bon, ce sont presque tous des personnalités. Il faut mentionner rapidement, mais mentionner, parce que là encore, il s'agit d'une organisation indéniablement de gauche, la prise de position qui est intervenue depuis de International Pen, c'est-à-dire la Fédération des Pen Clubs du Monde, qui disait encore à notre ami Mark Amis, le journaliste américain de Moscou, il y a quelques mois, que jamais il ne défendrait un écrivain qui ne soit pas de gauche. Il y a quelques semaines, donc la fédération représentée dans 94 pays du monde des clubs d'écrivains Pen Club a pris, après avoir dénoncé les positions politiques de Limonov avec laquelle elle est en complet désaccord, a exprimé la certitude que les éléments sur lesquels il avait été arrêté et sur lesquels il est menacé d'un procès à huis clos avec un véritable procès de Moscou avec toutes les pressions possible qu'on imagine sur les juges. Pen International Pen dénonce ce procès et demande expressément la libération de Limonov. Je dois faire état également de la première interpellation parlementaire que nous ayons obtenue sur cette question.
Lucas.
Monsieur Lionel Lucas, député apparenté RPR des Alpes-Maritimes, et ça me va droit au cœur puisque Nice est une colonie russe depuis le 19e siècle. Il y a des pages inoubliables de Nabokov sur les vacances de l'aristocratie russe à Nice. Maintenant, c'est le paradis de la mafia russe. Donc,
russe, la mafia venue de l'Est, c'est ça que vous dites.
Voilà, oui. Il n'y a pas de mafia russe, bien entendu. Dans le domaine des mauvaises nouvelles, je dois cette fois, et du silence de la presse, je dois signaler le cas de monsieur Michel Combes de Livres Hebdo. Je mène une campagne, et je conclurai là-dessus si vous me permettez, je mène une campagne sur Internet. J'ai constitué plusieurs listes de diffusion, environ 450 destinataires, les éditeurs, les journaux, les pen clubs, etc., etc. Et je reçois hier un courriel, de monsieur Combes qui me demande de retirer de ma liste l'hebdomadaire Livres Hebdo. C'est-à-dire que donc le seul hebdomadaire spécialisé dans l'édition française non seulement ne veut pas dire un mot de la situation d'un écrivain qui a un passeport français, qui est emprisonné arbitrairement à Moscou depuis 11 mois, mais il ne veut même pas en être informé. Alors je réponds immédiatement, publiquement, c'est-à-dire en transférant, en faisant suivre le message à tous mes correspondants, à monsieur Combes, pour lui demander si c'est bien ce que je viens de dire, si j'ai bien compris. Et aujourd'hui, il me confirme, et j'ai pu faire savoir à tous mes correspondants, que monsieur Michel Combes, de Livre Hebdo, a décidé que son hebdomadaire conserverait l'orientation d'extrême gauche qui est la sienne depuis des années et des années, et par ailleurs observerait le silence absolu de la majorité de la presse sur cette affaire Limonov. Je terminerai, à moins que vous ayez des questions, la dernière chose que je dois absolument dire, c'est la suivante, et j'en suis confus, et c'est la première fois en 50 ans d'existence que je dis une chose pareille, mais j'avoue publiquement que j'ai des revenus très modestes, et que la facture de 2500 francs de téléphone, succédant une facture de presque 2000 francs que j'ai reçue, me pose un gros problème, et déstabilise totalement mon très modeste budget. Ça tient aux centaines de télécopies que j'ai envoyées depuis le début de cette campagne, dont j'assume seul et bénévolement le secrétariat, et aux innombrables coups de téléphone et aux dizaines de milliers de courriers électroniques, même s'ils reviennent moins chers. Alors pour la première, j'espère la dernière fois de mon existence, j'indique que si les auditeurs, les lecteurs de notre presse qui me demandent de temps en temps ce qu'ils peuvent faire, eh ben, je suis obligé de leur dire que s'ils peuvent envoyer un chèque, même modeste, à mon ordre, par exemple à l'adresse du Libre Journal, je pense que vous accepteriez d'héberger ce courrier, je serais obligé de l'accepter, avec gratitude.
Merci Patrick. Donc si vous voulez participer directement, d'ailleurs j'allais dire indirectement, mais non, directement au travail de Patrick Goffman pour obtenir la mise en liberté de Limonov, vous pouvez envoyer au Libre Journal un chèque, même modeste, à l'ordre de Patrick Goffman, G-O-F-M-A-N, fils d'un glorieux combattant de l'armée
Vrangel.
J'ai hésité parce que chaque fois que j'attaque sur Vrangel, je dis Vlasov et c'est pas tout à fait la même boutique. Donc,
c'est pas la même période non plus.
C'est ni la même période ni la même boutique.
On donne mon adresse électronique.
Oui, bien sûr.
De le faire. Patrick.goffman, G-O-F-M-A-N, @wanadoo.fr.
Merci Patrick.
Merci Serge.
Emmanuel, je vous avais la parole pour nous expliquer ce que vous bouillez de nous expliquer, ce que je boue d'entendre moi depuis longtemps. Et il y a d'ailleurs des auditeurs qui le demandent. Que pensez-vous de la thèse de M. Messant qui prétend qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone et que l'affaire Ben Laden est une grosse manipulation américaine? Il l'a dit chez Ardisson. Alors, c'est pas la thèse de Messant seulement, c'est la thèse de beaucoup de gens.
C'est absolument pas la thèse de Thierry Messant. J'avais invité la semaine dernière le patron du site dgse.org, qui est un des plus gros forums d'Europe, qui a énormément travaillé sur la question, et nombre des données qui sont publiées dans l'ouvrage de Thierry Messant, qui était déjà épuisé lundi soir d'ailleurs dans les librairies, et qui va faire l'objet de plusieurs retirages, circulait sur Internet depuis plusieurs mois. Moi, j'ai repris ma première lettre électronique, je dis pas papier, mais électronique, que j'ai consacrée à la question. Je l'ai sortie fin septembre. Aux États-Unis, ce qui est tout à fait particulier, c'est que il y a des gens, bon, on ne les citera pas, bon, qui me traitent de comploteurs. Bon, c'est-à-dire qu'on pense
complotiste,
paranoïaque, etc. C'est-à-dire qu'on pense que il y a des tireurs de ficelles, il y a des marionnettistes, et de temps en temps, il y a des mensonges qui sont gros comme le monde, et avec les vertus de la télévision, ça passe très bien. Exemple type, les couveuses au Koweït, où les soldats irakiens avaient été censés arracher les bébés des couveuses, cité 17 fois, je crois, dans le discours de George Bush, et c'est ce qui qui a entraîné l'intervention américaine, et ça avait été payé par l'agence Elon Knowlton, qui a touché 10 millions de dollars, qui a fait un sondage pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de plus horrible pour les Américains, c'était de tuer des bébés. Donc ils ont monté ce coup-là.
L'infirmière
qui témoignait était la fille de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Voilà. Ça paraît débile, ça paraît complètement farfelu, tous les textes sont parus, tous les éléments, les photos, on les connaît. Bon, il y a d'autres éléments qui sont produits comme ça. Je dirais que dans l'histoire des événements qui sont produits aux États-Unis depuis le 11 septembre, il y a par exemple l'affaire de l'anthrax. Bon, on nous a dit, c'est Ben Laden, il y avait le chef de service secret irakien qui avait rencontré le numéro 2 des anciens services secrets bulgares en Pologne pour se filer du charbon, etc. Enfin, il y avait la mafia venue d'Union soviétique qui était au Kazakhstan, enfin c'était des trucs complètement farfelus. Il n'empêche que les gens ont gobé, il y avait des reportages, etc. Et puis on découvre maintenant qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour les laboratoires américains d'Eric, dont on a le nom, etc. Et semble-t-il, c'est une très très jolie manipulation.
Non seulement les gens ont marché, mais il faut quand même pas oublier que ça a provoqué une telle psychose en France que M.
Kouchner a commandé
4 millions de doses de vaccins à un laboratoire, lequel laboratoire a été littéralement sauvé de la faillite par cette commande opportune, puisque quelques temps avant, il avait été engagé dans une énorme affaire
de scandale de médicaments pour le cholestérol.
Mortel contre le cholestérol. Et donc là, ça mériterait quand même de s'intéresser de très très près à cette affaire. Que sont devenus les 4 millions de doses? Combien nous avons payé 4 millions de dollars, puisque c'était 1 dollar la dose. Et quel a été le rôle précis de M. Kouchner dans cette histoire? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé et comment les 4 millions de doses ont été livrées. Est-ce qu'elles ont été livrées? Est-ce qu'elles ont été payées? Qui sont les intermédiaires qui ont touché dans cette histoire? Parce qu'il y a forcément des intermédiaires qui ont touché. C'est dans toutes les affaires, dans tous les marchés d'État, il y a un monsieur qui commande, il y a un monsieur qui fournit, et entre le monsieur qui commande et le monsieur qui fournit, il y a un monsieur qui touche, parce que c'est comme le boulanger qui fait son pain, et puis il y a le boulanger qui vend le pain, il touche une partie.
Voilà un sujet d'enquête. Mais pour en revenir à cette histoire du Pentagone, je dis pas le World Trade Center, comme on a vu les avions, on a des films, on a des centaines de photos. Bon, aux États-Unis, dès 3 jours après, il y avait des sites internet qui se créaient, il y a quelques télévisions indépendantes qui en ont parlé, il y a des centaines de sites qui en parlent, et il se trouve qu'en France, bon, je dirais que Serge de Beketch, moi-même et quelques personnes, on a commencé à s'interroger, et il est vrai que à gauche, il y a aussi quelques personnes qui se posent des questions. Il y a M. Thierry Messant qui est arrivé au bon moment. On ne va pas lui reprocher quand, même si je suis pas du tout d'accord avec les conclusions de son ouvrage, qu'il analyse correctement des photos, à mon avis, même s'il a encore du chemin à faire à propos d'autres photos, d'autres événements qui sont passés à d'autres périodes historiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc,
pas du tout.
C'est pas un problème ni de droite ni de gauche, c'est de ne pas gober tout ce que la propagande télévisuelle veut nous servir. On n'a aucune photo de l'avion qui a s'est crashé sur le Pentagone, on n'a aucun film. Voilà, c'est très simple et on n'en a aucun morceau.
Il faut bien insister.
On n'en a aucun morceau. Alors que le World Trade Center, voilà. Même le premier a été filmé par deux Français qui étaient à New York. Moi, j'ai vu le film. Qui sera prochainement publié, enfin sans doute disponible en France, qui est passé sur CBS, mais qui est disponible sur Internet en petite Real Player vidéo. On a des photos du premier avion qui s'écrase. On a des films, et alors là on en a au moins une dizaine, puisque toutes les caméras étaient arrivées de deuxième, on en a des centaines de photos. Bon. Une heure après que le deuxième avion ait percuté le World Trade Center, il y a une explosion au Pentagone. On n'a aucune photo de l'avion, on n'a aucune vidéo. Il y a 400 caméras vidéo qui entourent le Pentagone. Les caméras vidéo sont tombées en panne ce jour-là. Il y a une station-service pas très loin qui donnait sur il y a une station-service qui donnait sur le Pentagone qui surveille les clients. Et dans le fond, il y a le Pentagone. Le FBI est venu saisir la cassette vidéo trois quarts d'heure après l'attentat. Bon, tout est comme ça, on n'a aucun élément. Alors surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un avion aux ailes repliables, puisque l'avion doit faire à peu près 39 mètres de large. Le trou dans lequel il est rentré, il suffit de mesurer, en fait, 17 mètres. Mais les ailes ont disparu, et ce qui est pire, bon, alors on nous dit qu'elles ont brûlé. Alors très bien, elles ont brûlé. Mais les moteurs, il suffit de voir quand il y a des crashs, le Concorde, etc., quand ils percutent n'importe où, on retrouve quand même les moteurs, même s'ils ont souffert, sous forme de compression de César.
Il y a d'autres détails. Et en plus, on a les lampadaires.
Les lampadaires qui sont autour n'ont pas été renversés. La pelouse est verte. À 15 mètres de l'attentat,
On nous explique que le fuselage a fondu.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de traces de l'avion. Écoutez bien, on ne trouve pas de traces de l'avion parce que la chaleur a fait fondre la totalité des structures métalliques. Voilà.
Il suffit de regarder les photos pour voir que la pelouse est verte.
Mais la pelouse est verte, premièrement. Deuxièmement, les étages, les tranches d'étages qu'on voit du fait de l'effondrement du bâtiment, on voit que le mobilier est intact.
Le mobilier qu'on voit dans les tranches du bâtiment, le mobilier n'a pas brûlé. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des ordinateurs qui sont encore en place. Ouais. Bon, les ordinateurs n'ont pas été brisés, n'ont pas été cassés, le plastique n'a pas fondu. Vous avez un avion qui est un Boeing 757 qui arrive à 400 km/h au minimum, qui rentre dans un immeuble qui est pratiquement qui doit être aux trois quarts plein de son kérosène. Il y en a au moins 10 tonnes et il ne se produit rien, mais en revanche tout a disparu. Voilà. Il percute une aile qui était la seule aile qui était en réparation, où les seules personnes qui... La seule aile du bâtiment qui était en réparation, à un endroit où il y avait pratiquement personne, et où les seules personnes pratiquement qui étaient tuées, il y a quelques militaires, mais la quasi-totalité, ce sont des peintres et des employés de ménage. Et il tape à un endroit où on ne risque rien, puisque c'était vide. Alors, donc on risque pas de détruire les ordinateurs.
Il faut dire que... Ce qui est totalement incontestable,
c'est qu'il y a des gens qui sont sur place. Voilà. Ouais. On a 3 à 4 témoignages au total de gens qui disent on a vu un avion. Mais il y a le journaliste de CNN. Les journalistes de CNN, qui est la première chaîne de télévision instantanée d'information, évidemment, ce sont pas des crétins. Quand ils ont vu que le World Trade Center était planté, ils se sont dit, il n'y a pas beaucoup d'avions, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on risque d'avoir un attentat. Donc l'endroit où on risque, c'est notamment Washington, où l'anglais, la CIA, donc ils se mettent devant le Pentagone. Et ben devant le Pentagone, le journaliste de CNN dit, j'ai entendu le bruit, mais j'ai pas vu l'avion. Bon, on a toutes sortes de témoignages comme ça, qui fait que quand même, bon, ben, si on nous montre des photos, il y a des photos qui sont sorties la semaine dernière, parce que les Américains savaient que le livre de M. Messant devait sortir en France, et puis que sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui se connectent. Il faut savoir que le site de M. Messant, actuellement, a à peu près 100 000 visites par jour. Parce que les gens se posent des questions et ça circule vite. Ils nous ont sorti 5 photos. 5 photos prises par une des caméras qui n'était pas tombée en panne. Ces 5 photos sont datées du 12 septembre, alors que c'est incrusté dedans à 17h37. Bon, on nous sort 4 ou 5 photos, sur aucune on voit l'avion. Vous les avez vus, Serge. Oui. C'est absolument inouï.
Non, mais
on vous montre l'explosion et on vous dit l'avion est arrivé.
C'est catégorique.
Si un avion, très bien, mais qu'on nous montre un morceau. Alors on nous dit qu'est-ce qu'est devenu l'avion. Ça, c'est une autre histoire. Il suffit de regarder les cartes qui ont été données par les différentes télévisions. À la différence des autres, il n'y a pas un seul chemin qui est identique entre ces cartes pour l'avion. Ils ont perdu sa trace pendant 20 minutes sur les écrans radars. Bon, tout est comme ça dans cette affaire. Moi, je peux parfaitement me tromper, ça n'est comme une hypothèse, et je répète que ça, c'est de la libre recherche historique. Si on nous dit que c'est du révisionnisme, ça ne me gêne pas. C'est du révisionnisme. Pour le moment, celui-là, il n'est pas encore poursuivi. Donc on peut travailler sur la question. Le jour où on nous interdira de nous poser des questions, il faudra bien s'arrêter ou on travaillera chez soi. Voilà. Moi, je dis que s'il n'y a pas d'avion, et vu qu'il y a un trou, il a bien fallu que ça se produise. Donc il y a autre chose. Et si ça a été calculé à l'avance, ça veut dire qu'il savait parfaitement que ça allait arriver au World Trade Center. Donc il y a une superbe manipulation, sans doute des terroristes arabes d'Al-Qaïda, qui sont manipulés par d'autres secrets, par d'autres services secrets ou par un terroriste d'État.
Voilà. Ce qui est, la question qui se pose, pour finir, c'est la suivante. C'est, je vous assure, moi j'ai regardé, vraiment, on a vu des centaines de photos hein, sur les sites pris sous tous les angles, par satellite, par avion, de côté, par en dessous, etc. Il n'y a pas eu d'avion contre le Pentagone, c'est une évidence absolue. Maintenant, c'était aussi facile de dire la vérité, à savoir que c'est un camion qui a explosé et qui a détruit une partie du Pentagone. La question est, pourquoi refuse-t-on de dire cette vérité évidente, puisqu'on voit sur certaines photos ce qui semble fort être les débris d'un camion qui a explosé? Pourquoi prétendre que c'est un avion, alors qu'on a la preuve photographique qu'il n'y a pas eu d'avion? Et pourquoi soutenir, et pourquoi cacher que c'est un camion qui a explosé? À quoi
correspond ce mensonge? Parce qu'il est impossible pour faire arriver... j'en ai discuté avec des pilotes, j'ai des abonnés de ma lettre, j'ai publié un dossier de 4 pages, et puis on en a beaucoup discuté via la lettre internet que j'ai dit. On en a beaucoup parlé ensemble. J'ai plusieurs pilotes qui m'ont dit qu'il était ce qui a été décrit par le Pentagone officiellement, aucun pilote au monde n'est capable de le faire. Il est impossible dans la surface qui était impartie de faire arriver un Boeing 757 faisant 40 mètres de large qui est rentré dans le Pentagone à 50 cm du sol. Et il s'est pas crashé, il est rentré en comme s'il atterrissait. On nous dit que c'est les pilotes que je connaisse m'ont dit que c'était pratiquement impossible à obtenir comme effet. Bon, donc il y a autre chose.
Bon, voilà.
Alors comme on a détourné deux avions, ils avaient peut-être pas envie d'en détourner un troisième pour monter une jolie provocation. Moi, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que avant de s'interroger sur savoir ce qu'est devenu l'avion, ce que sont devenus les gens, etc., ça serait bien si on trouvait les morceaux. Voilà.
Et ça rappelle une autre affaire similaire. C'était le fameux avion de la TWA qui s'était écrasé, je crois que ça devait être au large de Halifax, enfin au large des côtes américaines, et qu'on a certifié que c'était un problème dans les canals d'essence, donc on avait dit que c'était un accident et que l'avion n'avait surtout pas été abattu par erreur par un missile tiré par la marine américaine. Bon, je sais que chez les mécaniciens d'Air France, ça a beaucoup fait rire. La version officielle n'a pas tenu une minute.
C'est un peu différent parce que là, il s'agit de variations sur des motifs d'accident et tout. Alors ça a toujours existé. Mais là, non, il faut être bien clair.
Non, on n'a pas les boîtes noires. Les boîtes noires qu'on a retrouvées, c'est des boîtes noires d'hélicoptères qui ont explosé au même moment puisque ça s'est passé devant l'héliport.
Il faut être parfaitement clair.
Il n'y a pas de boîte noire.
Il s'agit de l'attentat du Pentagone. Mm-hmm. Le Pentagone a été frappé par une explosion.
Il y a des batteries antimissiles au Pentagone.
Cette explosion n'a pas été provoquée par un avion. Il suffit. Alors, ce que je voudrais, Emmanuel, si vous les avez en mémoire, c'est que vous indiquiez quelques sites internet parce que j'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire, il faut regarder, pour me dire, mais cette histoire est incroyable, comment voulez-vous qu'on avale des choses pareilles, c'est pas possible. Et tout. Je dis, mais faites comme moi, regardez les photos.
Alors, je vais vous dire, c'est simple. Bon, vous pouvez venir sur mon site, vous abonner à ma lettre, vous m'écrivez, je vous enverrai soit le numéro, soit le numéro que j'ai fait en PDF. Ce sera gratuit, vous le recevrez.
PDF, c'est-à-dire sur Internet.
Il vous suffit de l'imprimer, ça me coûtera moins cher que de vous l'envoyer, surtout que j'en ai envoyé déjà plus de 150 qu'on m'a demandé, donc il ne m'en reste plus beaucoup. Donc, c'est www.faits.com. Bon, il y a pas mal d'éléments. Il y a un truc qui est très simple. Bon, vous pouvez aller sur le site, on va le dire, du réseau Voltaire, puisqu'ils ont fait du boulot. Si vous tapez dans un moteur de recherche, vous mettez no plane, plus Pentagone, sur Google par exemple, vous trouverez des centaines de sites. Voilà. Ouais. Il n'y a aucun problème, avec des photos, il y a beaucoup de choses. Et un pour une fois, on peut le dire, les Français ont beaucoup ouais. travaillé sur la question.
Il y a un site qui s'appelle The Power House.
Oui, The Power Hour.
The Power Hour, pardon, ouais. c'est-à-dire l'heure du pouvoir. Ouais. The T-H-E, Power, P-O-W-E-R. Ou alors H-O-U-R, le tout en un seul mot. Hein.
Et il y a le forum .com. Et il y a le forum aussi dgse.org, qui est un forum français. On a accès directement aux archives. Donc il suffit de cliquer Pentagone, avion Pentagone, fait, et vous trouverez des centaines de messages qui, avec des liens qui vous permettront d'aller sur les photos.
Voilà, moi je vous recommande, enfin ceux qui s'intéressent à cette question, qui est quand même capitale parce que un mensonge de cette énormité, ça interpelle. On peut pas dire autre chose. On se demande à quoi ça sert, pourquoi c'est fait. Parce que, encore une fois, ils n'avaient pas de raison d'inventer un avion. Il suffisait de dire, ils ont monté leur coup avec un camion en même temps, etc. Or, pourquoi avoir inventé cette histoire d'avion? C'est inexplicable. C'est vraiment très, très, très mystérieux. Et c'est pas du tout le seul mystère de cette histoire. Il y en a bien d'autres qui viendront au jour à mesure. Moi, j'ai découvert en relisant la collection du Libre Journal depuis l'attentat que...
Vous en aviez parlé dès le début.
On avait parlé de tout, grâce à Carpentier de Gourdon, grâce à Blanza qui a fait un excellent travail, grâce à Boursier de Carbon qui a fait un remarquable travail aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet et qui ont découvert des choses ahurissantes.
Il est inutile de lire Le Figaro et Le Monde pour savoir ce choses.
Mais j'ai vu dans le numéro de Noël du Libre Journal, il y avait tout. Enfin, pas tout, il y avait énormément de choses. Énormément de choses. Or, on n'est pas un journal de grande investigation, de grand reportage. On n'a pas, contrairement à France Inter ou à Antenne 2, 275 journalistes payés à plein temps. Hein. Et c'est simplement en faisant fonctionner son intelligence et son cerveau, ce qui est un peu le même truc.
Mais sans vouloir rentrer dans les détails, on est en droit de se demander que s'ils nous ont menti sur ça, ils nous ont menti sur autre chose.
C'est pour ça que je disais que c'est un sujet intéressant, bien sûr. Merci Emmanuel. Donc,
J'avais un petit message. Monsieur Emmanuel Ratier sur Internet fait la promotion de Monsieur André Messin. Et Monsieur Messin fait partie du réseau Voltaire. C'est scandaleux.
Déjà Messin, il s'appelle Thierry.
Il s'appelle Thierry Messin. Je lui ai consacré un livre où je l'attaque. Alors qu'on vient de pas dire que je fais ma promotion. Parce que pour une fois, je dis, je suis pas d'accord avec les conclusions de son livre qui parle de l'extrême droite américaine alliée aux militaires et aux pétroliers. Bon, moi, pour moi, c'est pas du tout cette affaire. C'est son problème. Bon, mais si quelqu'un, moi, je dis. On regarde les photos, on voit pas d'avion. S'il y a quelqu'un qui est de gauche, qui dit « je regarde les photos, je vois pas d'avion », je vais pas lui dire « vous avez tort », alors que je suis du même avis que vous. Ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord sur ces prises de position à propos de l'homosexualité, de la drogue, ces attaques contre le pape, ces attaques contre le Front National, etc. C'est évident. Je suis l'homme en France qui est le seul à avoir eu le courage à s'attaquer à lui. Donc je trouve que ce genre de message, les gens feraient juste commencer par lire mes livres.
Je vais vous en donner un autre message qui va vous montrer comment ça fonctionne dans la tête de certains. Une auditrice. Emmanuel Ratier est dingue. Pas d'avion sur les deux tours.
Voilà.
Que fait-il des passagers? Ils ont quand même disparu, ils n'ont jamais existé. Madame,
ouvrez les
deux trucs que vous avez de chaque côté de la tête, là, les excroissances, ça s'appelle des oreilles. C'est fait pour entendre. Et normalement, entre les oreilles, vous avez une espèce de masse, gélatineuse, qui s'appelle un cerveau. Et avec ce cerveau, ce que vous entendez avec vos oreilles, normalement, vous pouvez le décrypter.
J'ai dit, on a des centaines de photos, on a des dizaines de films, des avions du World Trade Center, les deux tours de New York, les Twin Towers, on n'a aucune photo du Pentagone.
Pentagone.
Voilà.
Le Pentagone, c'est un immeuble qui fait 5 côtés, comme son nom l'indique, qui se trouve à Washington, District of Columbia, aux États-Unis, c'est-à-dire à quoi une heure d'avion de New York.
Et j'offre un an ou 10 ans d'abonnement à celui qui me trouvera une photo. Mais inutile de vous dire que rare photo qui a été publiée, il y en a une que mes abonnés m'ont envoyée, c'est une photo d'un des hélicoptères qui a éclaté. Alors, il faut quand même faire attention.
Abonnement à vie au Libre Journal à tout auditeur qui nous enverra une photographie de l'avion de Pentagone. Du Pentagone. C'est pas la peine de m'envoyer des photos des avions du World Trade Center.
Vous mettez en doute la chute de l'avion sur le Pentagone le 11 septembre dernier. Je ne comprends pas bien. Y a-t-il eu un avion qui a disparu avec ses passagers? Si oui, je me demande où il est tombé.
Mais nous aussi, on se demande où il est.
C'est la question qu'on
pose. Mais s'il n'est pas au Patagone, il est certainement ailleurs. Et la vérité, à ce moment-là, est beaucoup plus horrible.
Voilà.
Ça, c'est évident. Voilà. Parce qu'il y avait notamment la femme du procureur général des États-Unis, enfin, un type extrêmement important qui était celui qui était chargé du recomptage des bulletins de la campagne présidentielle. Cette femme était docteur en droit, elle était écrivain, elle était diplômée de criminologie. Elle a téléphoné avec son portable à son mari pour lui expliquer qu'elle allait mourir. Bon, elle a conversé à plusieurs reprises avec lui. À aucun moment, elle ne dit, puisqu'on a les témoignages de son mari, elle a son téléphone portable, elle téléphone à son mari, et cette femme a disparu. C'est évident que c'est pas son mari qui l'a tue ou qui la cache. Il n'y a pas de complot complètement ridicule. Il se trouve que cette femme téléphone à 3 reprises, à moins, à son mari. À aucun moment, elle ne lui dit, nous sommes... Si vous êtes... Il y a un avion qui est détourné par des terroristes arabes. Aux États-Unis, je veux dire, moi, je dirais, je téléphone à ma femme, je lui dis, ce sont des terroristes arabes, ce sont des Iraniens, ce sont, bon, à aucun moment, elle parle de la race ou de la couleur des gens. Bon, et c'est une femme qui était spécialiste pour écrire des romans policiers, etc., donc qui avait le sens de la description. C'est un peu comme si Patricia Highsmith est dans un avion, elle est détournée par des terroristes.
Deninx.
Voilà.
Imaginez, oui, bon, Deninx.
Elle est enlevée par des terroristes arabes dans un avion, l'avion est détourné, elle dit pas aux gens à qui elle téléphone, ce sont des gens musulmans, ou islamique, etc. Bon,
Stéphane,
c'est tout à fait étonnant. Donc, on se dit qui était dans l'avion.
Une dernière remarque avant que vous partiez, Emmanuel. Est-ce que, au sujet de l'avion qui serait écrasé près de Pittsburgh, boîtes noires, elles sont pas audibles, celles-là.
Emmanuel veut pas parler de ça. Okay. Je comprends très bien.
Je connais un sujet, voilà. Que je connais bien, on peut en parler. Voilà. Non, ils disent que les boîtes noires sont parfaitement audibles, mais qu'ils veulent pas les rendre publiques pour ne pas augmenter
le traumatisme
des familles. Ouais. Mais ils disent que c'est les seules boîtes noires qui soient lisibles.
Voilà.
Je regardais autre message.
Je vais revenir
là-dessus. On parle du Pentagone.
Du Pentagone, pas autre chose, pas d'autre chose.
Ça, c'est sur le Pentagone. Je regardais CNN en direct le 11 septembre. Lors de l'explosion du Pentagone, le journaliste de CNN a annoncé qu'un camion piégé avait explosé aux abords de l'immeuble. Ensuite, quelques longues minutes plus tard, il fut annoncé que c'était un avion.
C'est même paru en français, il suffit, prenez l'Express, Paris Match ou Le Point qui est sorti après. C'est des numéros collector qu'on conserve. Regardez, il parle du camion.
Je l'ai entendu, moi. Je regardais parce que mon fils m'a téléphoné en me disant « Regarde ce qui se passe ». J'ai regardé et j'ai entendu le journaliste dire « Il y a un camion ou une voiture piégée qui vient d'exploser ». Voilà. Merci, Emmanuel Ratier. C'est tout pour ça.
Il y avait autre chose. Quand j'écoutais il y a quelques années ce monsieur Messant sur Radio Libertaire, Microclimat, je croyais que j'entendais le général Gallois. Et ceci n'est pas une plaisanterie. Nous dit cet auditeur.
Non, par la voix, peut-être.
Mais c'est à cause de la voix.
Mais la nature des propos, ça m'étonnerait que la confusion puisse durer longtemps.
De plus, comment se fait-il qu'il n'y ait eu que 5 à 6 000 présents ce jour-là dans les tours? Nous, la repartie dans les tours.
On reviendra là-dessus. C'est pas le débat de ce soir.
Les tours, on aura l'occasion d'en reparler, Serge, tous les deux.
Je voudrais qu'on en parle d'une façon plus sérieuse et plus... en ayant préparé le dossier.
Sur la...
Non, mais vous pouvez continuer.
Oui, je te parlais de l'affaire Lajoie tout à l'heure, pour revenir un peu à l'affaire Lajoie. Il faut savoir aussi, puisqu'il y a encore de plus scandaleux dans l'affaire de Michel Lajoie, c'est que son procès était illégal. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait un lien que je qualifierais de membre de la même organisation philanthropique entre le procureur et les parties civiles. Ce qui fait que son procès était parfaitement illégal. Et comme l'avocat de Michel Lajoie n'était pas à l'époque l'avocat qu'il a actuellement, ça a eu son incidence. Pour ceux que l'affaire Lajoie...
Pas du tout de quoi vous parlez, mon frère. Mon cher ami.
Voilà. Et pour ceux que l'affaire Lajoie s'intéresse et qui voudraient avoir plus de compléments sur cette affaire, je signale aux auditeurs que j'ai écrit un petit ouvrage sur cette affaire. Donc, Elle comme Lajoie, que l'on peut se procurer aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18 63670 Le Sandre, pour 20 euros, frais de port compris.
Il s'est fait sa petite pub, tranquille, sans, il m'avait pas prévenu, rien du tout, bravo, belle
montagne. J'ai 3 gosses à nourrir, moi.
Écoutez, arrêtez maintenant. On va, pour bien montrer qu'on change complètement d'univers, on va écouter un petit peu de musique très très brièvement.